Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 14 septembre 2005 de 18 à 21h, en différé jeudi 15, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir. C'est un retour de vacances un petit peu, enfin même pas un petit peu, très triste parce que j'avais envie de faire une émission gaie et enjouée et puis voilà que Vladimir Volkov nous fait un très très mauvais tour. Et je suis très peiné parce que j'aimais beaucoup Vladimir Volkov. D'abord on avait des choses en commun et puis je le voyais pas assez. Comme toujours, on s'en veut de ne pas accorder plus d'importance au plaisir d'être ensemble. Et voilà que pour le revoir, il va falloir attendre, à condition qu'on soit au même endroit, puisque il était orthodoxe et moi je suis devenu catholique, et je ne sais pas si le bon Dieu a prévu ce genre dans le paradis, si je vais en voir au paradis d'ailleurs. Enfin, si j'y vais, lui, j'espère. Je ne sais pas s'il a prévu un emplacement où on pourra se rencontrer de façon œcuménique. En tout cas, je voulais vous dire que ça me fait beaucoup de peine d'apprendre cette nouvelle. D'abord parce que c'était quelqu'un qu'on aimait et c'était quelqu'un de précieux, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui, pour notre combat, représentait énormément par son intelligence, sa légèreté profonde, la pertinence de son regard et puis surtout l'originalité de sa pensée. Et voilà. Eh bien, j'espère qu'il fera un bon voyage et qu'il arrivera à bon port. Je sais que, enfin, je ne vais pas trahir un bien grand secret en vous disant que Jean Ferré fera son émission lundi, je pense en grande partie autour de Vladimir Volkov. Et qu'il dira certainement des choses beaucoup plus intéressantes que celles que je peux vous dire, comme ça, sous le coup de l'émotion immédiate. Voilà, ben on va faire comme s'il était toujours là, et on va faire une émission normale, c'est-à-dire complètement anormale. Je signale quand même, mais vous l'aurez deviné, qu'il ne sera pas donc à peine de pis le 2 octobre, pour lire sous les pommiers. Et donc que l'annonce que Anne Brassier nous demande de lire est au moins partiellement fausse. Elle nous dit, vous rencontrerez les auteurs normands ou non entendus, pardon, non, les auteurs normands ou non.
Virgule.
Oui, mais il n'y a pas de virgule, c'est ça le problème. Maîtresse, vous voulez pas corriger cette copie qui est nulle, Anne Brassier, vraiment,
je ne lui fais pas mon compliment. Partout.
Vous rencontrerez des auteurs normands ou non, virgule, et non pas vous rencontrerez des auteurs normands ou non, entendus sur radio. Ça me fait penser à cette histoire, vous connaissez la fameuse histoire de la dictée. Les poules s'étaient échappées dès qu'on avait ouvert le poulailler. Voilà. Il y a plusieurs façons de l'écrire, à cause de la virgule, justement. Voilà. Donc, vous rencontrerez les auteurs normands ou non, entendus sur Radio Courtoisie, elle aurait pu ajouter, mais non, pas ou non, qui dédicaceront leurs livres, parmi eux Jean Mabir, Dominique Vénère, et là, Vladimir Volkov, Jean Raspail, Jean Madiran, Philippe Conrad, Jacqueline Doxois, Philippe Maxence, Rénal Séché, des journalistes, Char, Jérôme Bourbon, Emmanuel Ratier, Olivier Bichon, Jeanne Smith, Olivier Figueras, Rémi Fontaine. Je trouve que pour des journalistes de combat, il y a beaucoup d'Olivier. Hein. Rémi Fontaine, des poètes, Daniel Ancelet, Yves Tarantic, Philippe Martineau, des artistes graveurs, Aude de Kéros et Maïté Geiger. Est-ce qu'on dit Geiger ou Geiger? Alors là, on a toujours des ennuis avec ces noms un peu bizarres. C'est moi qui vous le dis. Hein. Et donc le rendez-vous, c'est au manoir de Blosseville, à 300 mètres de la mer. Donc on peut pas plonger, contrairement à ce que quelques-uns pensent, directement du jardin dans la mer. C'est pas possible. Je sais que Ratier rêve de le faire, mais vous n'y arriverez pas, mon cher Emmanuel.
Juste en face, d'ailleurs, il y a le banc du Ratier.
Ah ben alors, voilà.
Ah bon, où se sont noyés un certain nombre de gens, oui. C'est juste en face.
Ça m'aurait étonné que ça finisse.
C'était un banc qui bougeait dans la Seine, mais qui existe toujours à marée basse. Et régulièrement, il y a des bateaux qui s'échouent, qui coulent.
Vous savez, ce qu'on dit là-bas, c'est que quand on est à Blosseville du manoir, quand on voit le Havre, c'est qu'il va pleuvoir, et quand on le voit pas, c'est qu'il pleut. Donc rendez-vous au manoir de Blosseville, qui c'est une merveille, le manoir de Blosseville, c'est superbe. Hein. Si un jour je me marie, j'organiserai la réception du mariage là-bas. Je sais pas si ma femme est d'accord pour que je me marie encore un coup. Comme elle m'écoute, je pense qu'elle va m'appeler pour me dire si elle est d'accord ou pas. Mais j'en doute parce qu'on n'est pas porté sur la polygamie dans la famille. À peine de pied sur la départementale 513 entre Honfleur et Deauville. Alors c'est une route sur laquelle il faut rouler très vite parce qu'elle a tendance à s'effondrer. Hein? Et vous savez naturellement que je parle sous le contrôle des deux policiers qui sont ici. Le meilleur moyen d'éviter les accidents, c'est de rester le moins longtemps sur la route, c'est-à-dire de rouler très vite, contrairement à ce que pense cet imbécile de Permen qui veut nous faire ralentir. Voilà, donc c'est le 2 octobre et on peut venir par le train. Il y a un accueil à l'arrivée du train de 8h49. C'est la courte ligne, bien entendu, de Paris à Trouville, Deauville et transport jusqu'à Peine de Pie. Site internet www.manoirdeblosseville.com. Entrée gratuite, sortie payante, selon la bonne habitude, de 11h à 18h, pique-nique tiré du sac. Et pour cela, apporter son pliant. Alors là, il faudra qu'Anne Brassier nous explique pourquoi il faut apporter son pliant pour tirer du sac.
C'est vous peut-être pour les auteurs, parce qu'il n'y a pas de siège fourni.
Ah, d'accord. Repli assuré en cas de pluie. Apporter son pliant, repli assuré en cas de pluie. C'est joli, ça. Hein. On est dans la poésie surréaliste. Bernard Anthony, bonsoir. Je vais chausser mon casque d'abord avant de causer, parce que... Êtes-vous avec nous?
Oui, oui, je suis avec vous, parfaitement.
Bonsoir Bernard. J'avais pas le casque sur la tête, ce qui fait que je n'entendais pas.
Les auditeurs de Radio Courtoisie et Manuel Ratier, parce que j'ai compris qu'il était là.
Eh bien, s'il vous entendait, il vous saluerait aussi, mais comme il n'a pas mis son casque...
Non, bonsoir Bernard.
Ah, bonsoir Bernard. Oui, je vous appelle parce que, pour plusieurs raisons. Une raison positive et directe, je vais vous poser une question à laquelle j'aimerais bien que vous répondissiez.
Bon. Bravo, bravo.
Non, vous pouvez vous contenter de vous répondre.
Admirable.
Hein. Ouais. Est-il exact que vous envisagez de rejoindre les rangs du villiérisme combattant?
Bah écoutez, je ne suis pas au courant.
Bon, voilà, alors comme ça. Je vous préviens, donc, je vous signale que vous êtes sur le point de rallier Villiers avec quelques-uns de nos amis.
Je me suis exprimé là-dessus, d'ailleurs, dans présent, arrivé en province ce matin.
Ah bon.
Et pour les auditeurs de Radio Courtoisie, je précise ce que j'ai déjà dit dans présent, à savoir que je ne suis pas au courant des fondements de cette rumeur, je puis dire qu'il n'y en a pas. Deuxièmement, Philippe de Villiers me paraît un homme honorable. Je l'ai rencontré pour la dernière fois il y a 10 ans au Parlement européen. Nous échangeons volontiers des propos courtois, quelques plaisanteries, mais je dois dire que je n'ai jamais eu de conversation de fond avec lui. Cela dit, de la même manière qu'au Conseil régional de Midi-Pyrénées, il m'était arrivé de bavarder avec Jospin, qui était quand même moins corrompu que certains. Je ne m'interdirais pas, l'occasion se faisait, de parler des intérêts de la France avec Philippe de Villiers, ne serait-ce qu'en tant que président de la GRIF, puisque dans la GRIF, il y a, vous le savez, comme moi, des gens du Front National, il y a beaucoup de villiéristes, il y a beaucoup de royalistes, il y a des gens d'autres nuances encore, et je vous le dis, j'ai l'intention d'organiser un grand dîner de la GRIF avec vous, Serge, qui faites partie de son bureau, qui est chargé de la communication de la GRIF. J'entends inviter le Premier ministre, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, les autorités religieuses de ce pays, le président du consistoire, le docteur Boubaker. J'espère qu'ils se rendront tous à cette invitation, comme ils le font pour le dîner du GRIF.
Ben, oui,
voilà.
Paraît.
Et donc j'inviterai naturellement Philippe de Villiers, Nicolas Sarkozy, Jean-Marie Le Pen. Voilà le domaine des responsabilités qui est le mien. Tout ça pour leur dire que il faudrait dans ce pays changer la législation liberticide du soi-disant antiracisme, qui est en fait donc un néototalitarisme que j'ai souvent dénoncé sur ces antennes.
Bien, donc vous n'êtes pas hostile à l'idée d'inviter Villiers à dîner en compagnie de Le Pen et du recteur Boubaker, mais ça ne veut pas dire que vous êtes prêt à rejoindre les rangs du mouvement pour la France.
De la GRIF, j'invite tout le monde, cela dit, je suis quelqu'un de lucide, et je me doute bien que tout le monde ne répondra pas à mon invitation, mais on verra là comment ils se conduisent. Voilà, et pour être encore plus clair, je souhaite, étant un homme de mouvement plus que de parti, qu'un jour le mouvement national français se rassemble. Il faut au moins le dire aujourd'hui pour que cela soit possible dans quelques années face aux terribles défis de notre société aujourd'hui, c'est-à-dire d'un côté la décadence et de l'autre le défi de l'impérialisme islamique.
Bien. Alors ça, ces choses-là étant parfaitement claires, la deuxième raison que j'avais de vous prier au téléphone, c'était de savoir ce que nous faisons le week-end prochain.
Eh bien, le week-end prochain, c'est la journée familiale, récréative, culturelle, politique du Centre Charlier et de Chrétienté Solidarité. Le dimanche 18, et ce que nous faisons, d'abord parce que notre affirmation chrétienne est claire, même s'il n'est pas moins clair que n'étant pas partisan d'un parti catholique, parce que ça serait une miniature effroyable, je suis partisan de l'affirmation des valeurs chrétiennes, et au Centre Charlier, à Chrétienté et Solidarité, nous sommes des catholiques, nous sommes des chrétiens, parce qu'il y a aussi des orthodoxes que je n'oublie pas, et même des protestants, mais enfin, il y aura d'abord une messe catholique traditionnelle, selon le rite dit de Saint-Pie-Saint, célébré par l'abbé Lourdelet. À la suite de quoi, un pique-nique, très simplement, comme je viens d'entendre qu'il y en avait un en Normandie. J'invite d'ailleurs Ratier, moi je ne pourrais pas être au sien parce que, hélas, j'ai ce jour-là un mariage familial.
Encore ?
Ah, ben, ça n'arrête pas.
On pense qu'on ne sont pas se marier chez vous. Quand ils ne se marient pas, ils font des enfants.
Oui, bah. C'est le dixième.
Et vous les baptisez.
Le dixième petit-fils qui vient de m'arriver.
Oh là là là.
Hein ? Bon, voilà, je le dis après tout pour les amis qui écoutent et tout se passe bien.
Alors donc, Bernard, il faut quand même que je vous lise un message parce qu'il y a un auditeur qui nous téléphone en disant avec tous les gens que vous voulez inviter à votre dîner, vous êtes en train de faire un remake du dîner de con.
Cet auditeur plein d'humour et je pense qu'il a compris le mien. Je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie, qui sont les auditeurs les plus intelligents des médias, savent pratiquer le deuxième degré.
Et le troisième, même si besoin.
Ça n'a rien à voir avec le 33e.
Non, bien sûr.
Hein? Alors, il y aura un pique-nique où vous serez et où je serai. Et on pique-niquera ensemble. Il y aura le cœur montjoie Saint-Denis.
Il faut préciser quand même qu'au bar, il y aura des vins de pays, des vignerons amis.
Voilà.
Il faut vraiment que ça soit des vignerons amis pour qu'on boive des vins de pays.
Oui, parce que c'est une question de morale pour moi. Je me refuse d'acheter des vins dont je ne connais pas la provenance. Et puis, je préfère acheter aux amis qu'à des éventuels ennemis. Donc, ça sera les vins, notamment de mon cher ami Catala, bien connu dans nos milieux, qui est un militant et qui est le délégué de la Drive de l'Aude, qui fait un excellent blanc et un rouge fort honnête, mais j'ai une petite préférence pour son blanc.
Moi aussi, en général, je préfère le blanc.
Voilà. Bon, eh bien, Serge, vous serez là aussi. Donc, il y aura des prises de parole pendant le pique-nique. Et puis, nous avons comme invité d'honneur un personnage que j'adore, je dois le dire, fascinant de combativité. C'est la petite Youmna Gemayel. C'est la
fille de Béchir.
Béchir Gemayel, le président de la République libanaise assassiné, avait eu une première petite fille assassinée elle aussi. Son épouse Solange, qui continue le combat, elle est très proche de nous, elle est, j'allais dire, la plus prestigieuse adhérente de Chrétienté et Solidarité. Et il y aura Youmna, qui est totalement de culture française, qui a fait ses études à Assas, et qui est évidemment à la fois du mouvement national français et du mouvement national libanais. Il y aura beaucoup d'écrivains, c'est Richard Haddad qui s'en occupe, notamment de la mémoire de l'Algérie française. Monneret, un certain nombre d'autres, je ne cite pas tous, ils sont les bienvenus. Et pourquoi cela? Pour faire face à la désinformation que nous subissons en ce moment. J'entendais hier sur une radio qui n'est pas la vôtre, la nôtre, Dieu merci, faire l'apologie de M. Maurice Allègre. Donc, nous organisons la riposte sur ce point-là. Et puis, il y aura, notre ami Jacques Lorcé, ce merveilleux comédien qui récitera pour les enfants et pour les plus grands, car c'est un grand écrivain politique, des poèmes de La Fontaine. L'après-midi, des prises de parole, il y aura Jeanne Smith du journal Présent, Thibault de la Tournée, vice-président de Chrétienté et Solidarité, et puis notre invité d'honneur, Karl Lang, mon vieil ami, complice pendant des années au Parlement européen. Et enfin, je donnerai mon discours final de rentrée. J'ai en effet un certain nombre de choses à dire, telles que je les ai esquissées tout à l'heure.
Alors tout ça, ça se passe comme d'habitude au domaine de Grand Maison, qui est le deuxième endroit où j'organiserai mon mariage. Voilà. On fera le mariage laïque à Blosseville et le mariage religieux à Grand Maison.
Très bonne idée, Serge.
C'est une bonne idée, hein.
Je serai là, mais je ne sais pas ce que Daniel va en dire.
Je ne lui en ai pas encore parlé.
Je pense qu'en réalité, tu vas te remarier avec elle, ça fera quelque chose de sympathique.
Voilà.
On peut créer quelque chose comme ça, quoi, hein.
On va essayer de faire ça, oui.
Voilà.
Donc le manoir de Grand Maison, c'est dans le château. Enfin, ça s'appelle pas le manoir, c'est le domaine de Grand Maison.
Le domaine de Grand Maison, à Villepreux.
C'est un endroit superbe. Je le dis à chaque fois, mais c'est parce qu'il faut insister là-dessus. C'est vraiment un endroit magnifique. Voilà. Très très beau. Et on est accueilli par des amis.
Je pense
bien élevé, intelligent et gentil.
Aussi. C'est un moment de retrouvailles. Mmh. Je crois qu'il fera beau. La météo semble bien s'annoncer. Et puis même s'il pleuvait par hasard, nous sommes abrités aussi. Mais enfin, il faut insister évidemment sur cet aspect, parce qu'il y a les discours, mais il y a surtout la rencontre de la famille. Si, comme je le pense, nous sommes plusieurs centaines, à vrai dire, j'attends 700-800 personnes, un petit millier, ça serait bien. Je crois que nous pourrons élaborer des perspectives qui vont toujours dans le sens qui est le nôtre, de l'amitié française. On doit aujourd'hui notamment dire que le combat n'est pas fini, que plus que jamais il faut réagir, et notamment, pour ma part, je vais réagir contre l'abomination de ce qui se passe au musée du Louvre.
Ah, dites-moi ça.
Alors, l'abomination de ce qui se passe au musée du Louvre, c'est tout simplement que, avec la complicité active de celui qui nous sert de président de la République, le prince Walid Ben Tabal Al-Saoud, enfin, j'oublie un
certain... Et autre lieu découvert à Maribas.
Découvert dans le désert. Donc, le prince Walid Al-Saoud est un grand mécène, et il paie, donc, là, il faut fournir, voilà, une aide financière importante pour des salles d'art islamique. Bon, passons encore cela, mais pour que les visiteurs puissent désormais voir combien l'islam est une religion de progrès, de tolérance, d'humanisme et de pardon, je ferme les guillemets. Alors cela est intolérable, parce qu'enfin au musée du Louvre, il y a de tous les arts, mais on n'a jamais présenté jusqu'à présent l'Arasset, les salles d'Arasset tombent de la propagande pour l'idéologie Arasset. On n'a jamais présenté les œuvres d'art chrétien, même comme du prosélytisme chrétien. Pour la première fois au musée du Louvre, donc, il s'agit en fait de faire non pas, donc, parce qu'il y a de l'art musulman, nous en convenons tout à fait, mais enfin, il s'agit donc de faire de la propagande. Nous aurons à causer, nous y reviendrons, sur le pardon, sur l'humanisme, sur la tolérance. Alors j'ai pris Son Altesse Royale au mot. Car Son Altesse Royale s'est exprimé, je le note, dans une quantité de quotidiens et d'hebdomadaires. J'ai noté que vous n'aviez pas reçu cette publicité, Serge, ni moi pour Reconquête, ni Ratier, j'imagine, ni Rivarol, ni Aspect de que sais-je encore, ni Monde et Vie. Alors, j'ai demandé par une lettre qui part pas plus tard que demain matin au prince, à Son Altesse Royale, le prince Al-Walid, de me recevoir. Parce que je lui demande la réciprocité. S'il est vrai que l'islam, comme il le dit, est une religion de tolérance, je m'en réjouirai. Ça voudra dire qu'il y a une évolution, qu'on revient à une interprétation du Coran, qu'on prend dans le Coran les sourates qui seraient celles de la tolérance et qu'on oublierait celles des autres. Vaste sujet. Alors, je lui demande simplement la chose suivante. De m'aider dans mon projet d'établissement d'église en Arabie Saoudite. Si la cathédrale à la Mecque fait problème, je le comprends, encore que sur M6, le prince ait dit, vous comprenez, on ne peut pas avoir des églises en Arabie Saoudite, c'est comme s'il y avait une mosquée au Vatican. Non mais on rêve, hein, on rêve. Hein, le Vatican, c'est grand comme la moindre des petites propriétés de Son Altesse Royale. Hein. Bon, alors à Rome, il y a une grande mosquée. Rome est pourtant la capitale de la chrétienté. Alors ce que je demande, c'est non pas une église, une cathédrale à l'intérieur de l'aire des grandes mosquées de la Mecque, mais au moins à la Mecque, une cathédrale quelque part. Bon, si cette cathédrale n'est pas possible, au moins des églises à Riyad et à Jeddah, et à Taïf, parce que là, c'est très possible. Et il y a des centaines de milliers de chrétiens. Le prince a eu quand même le toupet, qu'il me pardonne s'il m'écoute, mais enfin voilà, il a eu le toupet de dire que en Arabie Saoudite, il n'y avait pas de chrétiens. Bon, il y en a, il le sait fort bien, à moins qu'il ne les voit pas, c'est possible aussi, des centaines de milliers, qui sont des immigrés, souvent traités d'ailleurs, disons-le très carrément, comme des domestiques, voire comme des esclaves. Ces chrétiens-là n'ont pas accès à des lieux de culte. Le prince a dit qu'il pouvait très bien dire, célébrer des offices dans leur chambre. Non mais de qui se moque-t-on? C'est ça l'islam, une religion de tolérance? Alors moi je demande la réciprocité. Les musulmans demandent dans les pays de vieille chrétienté toutes les libertés, toute la possibilité de construire les plus grandes mosquées. Ma réponse à moi c'est de dire au prince, si vous ne vous moquez pas du monde, avec d'ailleurs il faut le dire la complicité des hebdomadaires et des quotidiens, si vous ne vous moquez pas du monde, permettez-moi de m'aider, je ne vous demande pas un centime, je ne demanderai jamais pour ma part un centime à quelque étranger que ce soit. C'est ce qui me différencie de certains, mais c'est une autre histoire. Alors donc, permettez que l'on aille en Arabie, que l'on puisse donc bâtir de modestes églises, et surtout que l'on puisse, installer des salles d'art chrétien au musée de Riyad, pardon, parce qu'il y a à Riyad un très beau musée, j'en ai des photos, et je pense que quelques enfilades de salles pour présenter les beautés de Fra Angelico, de Botticelli, de l'immense art chrétien, ça serait bienvenu. Et là, je ne doute pas, voyez-vous, finalement, parce que ce prince m'a fait un bon effet, il est un homme courtois, il est un Parisien, il est le propriétaire de l'hôtel Georges V, je pense qu'il va avoir... le sens de prouver ce qu'il a affirmé en nous facilitant cette installation. J'espère aussi que le ministre de la Culture, M. Donadieu de Vabre, qui est un homme de grande culture, vous le savez, donc appuiera ce projet.
Oui, non, mais je suis absolument d'accord avec vous. C'est certain. Il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus. Et on soutient, enfin moi je soutiens tout à fait votre initiative, hein, et je compte beaucoup sur monsieur, comment vous dites,
Donadieu de Vabre, ouais, oui, je serais mieux inspiré, parce que monsieur Donadieu de Vabre, monsieur le ministre de la Culture de la République française, après avoir assister au spectacle urinaire du théâtre de la ville dont nous avions parlé, The Crying Body. Ben, il est allé le voir à nouveau, ce spectacle. À ce spectacle où l'on asperge, pardonnez-moi, auditeur de Radio Courtoisie, mais il faut dire les choses quand elles le sont. Il est allé le voir à nouveau, ce spectacle obscène, abominable, horrible, à Avignon, cet été.
Écoutez, Bernard, chacun prend son plaisir où il le trouve. Si oui, ce type aime se faire pisser dessus, c'est vraiment son droit. Hein,
c'est vraiment son droit, mais en l'occurrence, moi, je m'adresse non pas aux personnes, mais aux fonctions. Il est titulaire d'une fonction importante, celle de ministre de la Culture de l'État français. Il accepte, lui, bien sûr, derrière Jacques Chirac, qu'il y ait désormais au musée du Louvre, donc dans un de nos monuments les plus prestigieux, qu'il y ait des salles destiné non pas à montrer de l'art, parce qu'il y en a, je n'en disconviens pas, mais à faire de la propagande, à mon avis très mensongère, de la désinformation sur l'islam. Voilà pourquoi, Villepreux, je vais me battre sur cela. Voilà pourquoi je demande aussi, une fois de plus, parce que, bien sûr, nous devons travailler, mais nous devons agir, nous devons être dans la rue. Je demande aux auditeurs de Radio Courtoisie de s'abonner à Reconquête, de s'abonner à la griffe qui mène un combat, qui va bien sûr mener ce combat-là, parce que c'est un combat pour le respect de notre identité française. Je ne sais pas si on pèse bien ce qu'il y en est. Alors voilà pourquoi, Serge, je veux ajouter que, enfin aujourd'hui, il serait quand même dérisoire qu'on ne puisse pas envisager non pas peut-être une fusion d'organisations, ça tourne toujours mal, mais au moins une unité en profondeur. Hein. Donc là, quand Villiers parle de l'islam, comme il en parle, je le dis tout de suite, il fait bien. Bon, et donc quand il est attaqué par le MRAP, nous sommes avec lui. Mais ce que je voudrais, moi, c'est que toute la résistance nationale se mobilise aujourd'hui, parce que en fait, ce symbole du Louvre occupé, après tellement et tellement de signes de la submersion de notre pays par l'islamisme, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter.
Merci Bernard Anthony. Rendez-vous dimanche à Villepreux, au domaine de Grand Maison, pour la grande journée
merci,
culturelle, récréative et du Centre Charlier, de la Griffe et de toutes ces sortes de choses.
Et
du Chrétienté Solidarité.
Et de tous ceux qui font partie de la famille.
Nous y serons.
À bientôt, Serge.
À bientôt. J'arrive pas à me faire à ces écoutoirs. Ces écouteurs, à force de parler de Donadieu de Vab, on finit par trouver des rimes à urinoir. Alors, Emmanuel Ratier, un commentaire sur ce qui a été dit? Tout à fait au début, par exemple, vous qui êtes au fait de tous les dessous de la politique.
Non, il y a une seule chose qu'on peut regretter, qui s'inscrit sans doute d'un peu dans... Enfin, sinon dans le cadre, dans la même idéologie que l'ouverture, enfin d'un département spécifique des arts de l'islam au Louvre, on peut regretter, quelques personnes en ont parlé, mais il n'y a pas eu d'émission spécifique là-dessus.
La fermeture.
Sur Radio Courtoisie, c'est la fermeture, j'en avais parlé il y a plus d'un an, populaires. Des arts et traditions populaires au Bois de Boulogne, et qui était un musée absolument fabuleux. Ouais. Et donc qui a été fermé tout début septembre, et qui va être transféré et transformé pour être installé à Marseille et sous une nouvelle appellation qui indique exactement ce qui va être fait, c'est-à-dire un musée des arts de la Méditerranée.
Oui. C'est incroyable.
C'est-à-dire les deux côtés. Disparaît évidemment, mis à part la culture provençale à la limite et la culture de la Septimanie, on peut dire, l'ensemble des autres provinces françaises, évidemment avec une arrivée d'objets folkloriques, sans doute assez rares, parce qu'ils sont un peu chiches là-dedans, sauf des trucs fabriqués en Chine, des pays du Maghreb, du Machrek et du Proche-Orient. Tout va être installé dans une espèce d'immense boîte de chaussures métalliques absolument gigantesque à côté du Fort Saint-Jean, avec une galerie métallique qui partira du haut et qui rejoindra ce musée. Et inutile de dire que, je sais pas, au musée des arts et traditions populaires, il va y avoir 600-700 000 objets. Là, on va en présenter 2000 soigneusement triés, c'est-à-dire qu'il y en aura à peu près 500 français, et tout le reste n'aura plus rien à voir. Donc, le trésor des provinces, de la culture, des habitudes françaises, a disparu sans que pratiquement personne en parle.
Mais ça fait très longtemps que ce musée est en déshérence, et en déshérence organisée et volontaire, j'en ai une preuve.
Non, parce qu'en plus, c'était un des musées les plus récents de France. Oui, il avait été inauguré en 1970 ou 72.
Voilà. Il y a quelques années, on avait voulu, faire offrir au musée la robe de mariée d'une aïeule qui vivait sous Louis XVIII. C'était mariée sous Louis XVIII. C'était une très jolie robe traditionnelle, une robe de mariée bourguignonne. Et j'ai donc téléphoné à la direction du musée en disant voilà comment je dois faire pour. Oh bon, vous savez, non, ça nous intéresse pas tellement, on sait pas trop quoi faire de ça, bon, etc. Voilà. Donc c'était comme une jolie pièce, et qui avait une valeur, d'abord une valeur patrimoniale, et puis une valeur monétaire. Moi je voulais pas la vendre, je voulais en faire don. Donc on sentait très bien que c'est du patrimoine français, tout ça.
Mais vous serez content parce que normalement à Marseille, si mes souvenirs sont exacts, il est prévu que l'ouverture comprenne le costume du marié de Bègle, c'est pas une blague, et un char de la Gay Pride.
Oh, bah c'est formidable.
Considéré comme des objets folkloriques.
Un pantalon à pan, mais. Oui, bref, enfin voilà. Eh ben c'est bien tout ça. Ah oui, alors il y aura le costume du marié de Bègle. Et les moustaches du maire, non? Oui, c'est bien, on vit dans un beau pays. Moi, je suis très content de vivre en France aujourd'hui. Il y en a d'autres qui sont contents de vivre en France. C'est ceux qui viennent. Alors, mais il y a une chose qui m'étonne beaucoup quand même, c'est que c'est les déclarations à la suite des incendies. J'ai retenu quelques déclarations récemment. Il y en a une. Je voudrais pas faire de l'humour malvenu, mais enfin quand même, il y a des gens, au lieu de parler, comme disait mon grand-père, il ferait mieux de fermer leur gueule. Enfin, mon grand-père disait pas ça, mais il le pensait tellement fort qu'on l'entendait. Il y a un type qui s'appelle Ahmed Daillé, qui est membre du secteur A. Alors, le secteur A, je crois que c'est l'ancien ministère amer ou quelque chose comme ça. C'est un groupe de rap. Alors, on lui dit... Quel sentiment vous inspire ces incendies à répétition frappant des familles d'origine africaine? Alors il dit dans les conneries habituelles, quoi, blablabla, blabla, et puis il termine en disant quelque part il y a des gens qui sont en colère et qui sont prêts à s'enflammer. Voilà. Ça me fait penser à... Il y avait un pilote de course de F1 qui s'était tué en voiture et qui avait été carbonisé dans sa voiture. Et le commentateur de télévision avait dit grièvement brûlé dans l'accident de son véhicule, le pilote s'est éteint à l'hôpital. Mais c'est vrai en plus. Voilà. Donc quelque part, il y a des gens qui sont en colère et qui sont prêts à s'enflammer. Voilà. Il y a eu d'autres déclarations, il y a eu Dieudonné, on lui dit « Quel sentiment vous inspire ces incendies à répétition ?» Même question, alors il répond, il a dû faire des études pour ça, il répond « Il faudrait que ça cesse. » Qui oserait dire le contraire? Parce que là, ça fait une loi des séries dangereuse. Et il y a une sorte de sentiment d'injustice qui est en train de naître et qui est en train de créer un vrai trouble. C'est vrai que moi je pense que pour la bonne justice, chaque fois qu'il y a un hôtel de squatteur africain qui meurt, on devrait foutre le feu à un hôtel habité par des Européens comment dire, enfin pas mélanoderme. Comment on dit quand c'est pas mélanoderme, l'autre mot? Ça serait justice, hein. Comme ça, ça va être rétabli. Il faut que l'État, dit Dieudonné, cesse son attitude paternaliste vis-à-vis des familles. Paternaliste, qu'est-ce que ça veut dire? Viens chez moi, il y a du feu. En tout cas, il trouve que c'est... Alors, on lui dit, mais paternaliste... Il dit oui, parce que on leur a distribué 450 euros par personne. C'est là que je me suis aperçu qu'après le drame, se jouait une stratégie paternaliste dont le but était d'étouffer l'affaire et le rôle des pouvoirs publics. On leur donne de l'argent, ils sont pas contents encore. On me dirait, c'est extraordinaire quand même. Alors c'est du paternalisme. Moi je veux bien que je paternalise tous les matins, je veux bien que monsieur Sarkozy soit paternaliste, me porte une enveloppe avec 450 euros dedans, bon, ça me va moi. J'ai même plus besoin de faire de la radio.
Parce que ça rapporte en plus.
Le ministre de l'Intérieur vient de demander que les immeubles insalubres soient évacués. Les pouvoirs publics sont assez volontaristes. Vous pensez que la situation va réellement changer, lui demande-t-on ? Alors il répond, Dieudonné. Il aurait mieux fait de le garder, entre parenthèses. Dieu. Le ministre de l'Intérieur s'est aussi fendu d'une phrase particulièrement nauséabonde au sujet des gens qui n'avaient rien à y faire. Nous avons même entendu le mot « sans-papiers ». Alors oui, quand vous dites que des sans-papiers sont sans-papiers, c'est nauséabond. Et alors, il ajoute, Dieudonné, je n'ai pas envie de rappeler à ce monsieur Sarkozy qu'à un moment de l'histoire, ses parents n'avaient pas de papier. Mais qu'est-ce qu'il en sait ? Moi, mes grands-parents, quand ils sont arrivés en France, chassés par les communistes, qu'ils avaient combattu jusqu'au bout, ils avaient des papiers. Ils se sont installés, ils ont demandé s'ils pouvaient s'installer, on leur a dit oui. Si on leur avait dit non, ils seraient partis. Ils ne seraient pas installés dans un hôtel en squattant. Et quand leur maison a brûlé, juste quelques années après être arrivés, on les a pas relogés dans un hôtel. Ils se sont démerdés, mes grands-parents. Ils ont travaillé, et puis ils sont devenus français, et ils n'ont pas eu besoin que le ministre de l'Intérieur vienne les voir au milieu des ruines fumantes pour leur donner 450 euros. C'est quand même assez incroyable, cette histoire. Il ajoute, ce genre de petite réflexion ne fait qu'envenimer la situation, notamment auprès des jeunes que j'ai sentis très remontés, et qui ont notamment asséné des Sarkozy assassins, Chirac assassins, durant la manifestation. C'est Sarkozy qui a foutu le feu aux immeubles, c'est Chirac qui a foutu... Dieu sait que j'aimerais pouvoir prouver que c'est Chirac qui a foutu le feu à ces immeubles. Parce que ça réglera la question une fois pour toutes. Mais seulement c'est pas ça, c'est pas vrai, il a foutu le feu à rien. C'est comme Bush, il a pas organisé les inondations de Saint-Louis. Enfin, on vit dans un monde de fous furieux, maintenant.
De la Nouvelle-Orléans.
Oui, la Nouvelle-Orléans, pardon.
Non, mais le problème, là, il y a eu un... Bon, il y a quelques... Enfin, quand même quelques jours. Il y a eu une interview du propriétaire du
oui,
deuxième immeuble qui avait pleuré, bon, dans lequel il expliquait que il était entièrement prêt à faire des réparations, que il y avait eu un arrêté de péril, mais que il pouvait pas de toute manière faire les réparations puisque les gens qui étaient à l'intérieur refusaient de partir pour qu'on puisse faire des réparations. Et qu'il y en avait eu toute une série qui avait été faite et que tout avait été détruit très rapidement. Et après, il y a eu une interview assez intéressante dans Le Monde, d'un adjoint d'ailleurs vert à la mairie de Paris, qui expliquait qu'il y avait un vrai problème, puisqu'en général, c'est des familles qui sont très nombreuses. On a vu qu'il y avait beaucoup d'enfants et très peu d'adultes qui décédaient, en général polygames. Il expliquait que le principal problème, c'est qu'ils avaient déjà, assez sympathiquement, relogé un certain nombre des familles, dans des HLM de la ville de Paris, notamment, ce que peu de gens savent, par exemple, dans le 4e arrondissement. Mmh. Donc c'est pas, la banlieue perdue, etc. Bon, tout ça étant évidemment payé par l'aide personnalisée au logement et tout. Mais expliquer que le problème, c'est que dès que des gens quittaient ces immeubles-là, la place était aussitôt revendue. Et qu'il y avait une nouvelle famille qui s'installait dedans. Donc en fait, il était un peu curieux, il expliquait en gros, bon, tout en le regrettant, que c'était une espèce de pompe aspirante.
Mais bien sûr, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il faut ajouter d'ailleurs que quand Dieudonné dit... non, ça c'est pas Dieudonné, c'est une femme qui s'appelle Célia des Nubians. Alors je pense que c'est une chanteuse, une danseuse, une joueuse de tam-tam, une couturière en boubou, je sais pas. Alors on lui dit quel sentiment vous inspire. On peut se poser des questions. Pour l'instant, la sonnette d'alarme a été tirée sur tous ces bâtiments insalubres. Sur la manière dont on vit ici et dont on nous loge. Attendez, mais je suis allé au Sénégal il y a quelques années. Je m'est pas venu à l'idée d'aller au ministère pour dire bon alors j'arrive là, vous allez me loger et vous allez me donner du fric. Est-ce que vous avez le RMI, vous avez une carte de sécurité sociale, est-ce que je peux être soigné gratuitement? Si j'avais fait ça, ils m'auraient pris par le col, ils m'auraient foutu un coup de pied au cul, ils m'auraient renvoyé dans l'avion. Ils auraient eu bien raison. Eh ben non, nous en France, on peut arriver et puis. C'est comme ça que vous nous logez ? Hein ? Vous avez un type qui vient, il frappe chez vous. Je peux entrer ? Oui, entrez, monsieur. Bon, où est la salle de bain ? Au fond, à gauche. Bon, je vais prendre un bain, vous me préparez ma chambre. Mais monsieur, vous n'êtes pas chez vous ? Oh, m'emmerdez pas. Hein. Et puis, quand vous lui montrez sa chambre, il dit, quoi, c'est cette chambre-là que vous allez me donner à moi ? Non, mais vous me prenez pour qui ? Vous me prenez pour un clodo ? Oui, monsieur, justement, je le prends pour un clodo. Et alors en plus, pour les soigner, une Camerounaise atteinte du sida est menacée d'expulsion. Pourra-t-elle rester en France afin d'être soignée? La question est encore sans réponse. 10 juges du tribunal administratif de Lyon, je ne sais pas combien sont payés les juges du tribunal administratif de Lyon, mais ils ne doivent pas travailler gratuitement, réunis hier après-midi en formation collégiale, fait rarissime, vont devoir statuer sur cette question. Enfin, c'est invraisemblable.
Enfin, je vous dis tout de suite, elle l'a eu. Hein.
Ah bah évidemment, tu penses. Ces magistrats sont chargés de se prononcer sur la requête en référé suspensif visant à faire annuler le refus de la préfecture du Rhône d'attribuer une carte de séjour provisoire. Voilà. Cette femme a le sida. Bon, pour savoir comment elle l'a attrapée, mais probablement pas en jouant aux cartes. Et comme là-bas, on soigne pas le sida ou mal, elle vient en France. C'est normal qu'elle essaye de venir en France se faire soigner. Mais ce matin, on nous a cassé les oreilles, je suis poli, pendant une heure, en disant qu'il fallait supprimer le remboursement de l'effet Algan parce que ça coûte du fric à la sécurité sociale, et on va faire venir des Africains pour les soigner du sida en France. Alors moi, je veux bien, c'est très généreux. Seulement, combien ça coûte? Il faut quand même savoir une chose, c'est qu'avec la nouvelle, avec les nouvelles dispositions qui ont été prises au niveau international, avec les médicaments génériques, le traitement d'un sida en Afrique, ça coûte 1000 euros par an. Et par personne. En France, ça coûte 15 000 euros par personne et par an. C'est-à-dire que si il y a officiellement 30 millions de sidaïques en Afrique. Alors quand les gens comme Frédéric Bidault nous disent que en leur envoyant ces gens-là chez eux, c'est un billet de retour vers la mort et que il faut les soigner en France, peut-être. Enfin, qu'il faut les soigner, peut-être qu'il faut les soigner. Mais pourquoi faire rentrer celles-là et pas les autres? Donc il faut faire rentrer en France 30 millions d'Africains sidaïques, il faut qu'on les soigne dans nos hôpitaux, ça va coûter l'impôt sur le revenu. Est-ce qu'on a les moyens de payer l'impôt sur le revenu, de consacrer l'équivalent de l'impôt sur le revenu à soigner 30 millions d'Africains du sida? Mais enfin, on vit dans un monde de fous furieux. On nous dit qu'on ne peut pas rembourser le Feralgan parce qu'on n'a pas de fric, et on va faire venir, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas faire venir 30 millions si on fait venir une. Et en plus, on se fait engueuler, parce que quand elle va arriver, cette femme-là, il va falloir la loger, bien entendu. Elle va nous dire, c'est là-dedans que vous me logez alors que je suis malade du sida? Et quoi, c'est ça que vous me donnez à bouffer?
Enfin, très très honnêtement, Serge, je pense que vos chiffres sont faux.
Ah non, je dis
parce que il y a deux ans,
oui.
Le traitement d'un malade du sida, qui en général fait des séjours réguliers en hôpital, en France coûtait 1,15 million de francs.
Non, je parle.
Donc, c'est peut-être juste les médicaments, là. Pour 15 000 euros.
Oui, c'est ça.
C'est vraiment pas cher. Hein.
Le médicament, oui. Par an.
Mais il y a tout le reste.
Ah ben bien sûr, il y a l'hospitalisation
et
tout.
Et puis en plus, quand vous êtes atteint du sida, vous pouvez pas travailler.
Enfin ça, c'est des chiffres officiels qui sont donnés par un site internet, tout ce qui est plus fiable, semble-t-il.
Enfin non, bon, mais bien, de toute façon,
ce sont des chiffres qui sont pas exagérés. Ce que je dis. Si les chiffres sont faux, les chiffres vrais sont supérieurs. Donc
oui.
On peut estimer que j'ai sous-estimé la réalité. Voilà, et comme dirait Ahmed Diaye, il y a des gens qui sont en colère et qui sont prêts à s'enflammer. Pas Mademoiselle Marie de Villepin qui pose dans elle, vous avez vu, là, pendant que le papa, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, pendant que papa est à l'ONU, qu'est-ce qu'elle fait, Marie de Villepin? Elle pose dans elle. La paix nous dit, fille discrète du Premier ministre, mais mannequin à 16 heures, c'est chantier, mannequin à 16 heures. Marie de Villepin, Marie Galoujo de Villepin, se dévoile un peu et pose cette semaine dans elle. À 19 ans, la fille aînée de Marie-Laure et Dominique de Villepin est photographiée par Gilles Ben Simon dans des tenues de Giorgio Armani, Givenchy et Valentino. Marie de Villepin, qui mesure plus d'1m75 et pèse moins de 55 kilos. Moi, c'est plutôt le contraire. Je fais plutôt 1m55 plus 75 kilos. Mais moi, je ne pose pas dans elle. Est présentée par le magazine comme une étudiante en économie, mais aussi mannequin à l'occasion. Business woman, actrice à 16 heures, jet-setteuse. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis jet-setteuse. C'est quoi ça?
Bah c'est jet-setteuse. Non mais c'est assez vrai parce qu'elle est très très souvent en photo dans Point de vue. Il y a deux ans, elle a fait son premier bal des députés à l'Opéra. Non, c'est un personnage intéressant à suivre, mais qui s'inscrit dans la lignée de nombreuses filles de ministres.
On apprend également qu'elle a passé sa petite enfance aux États-Unis et en Inde, qu'elle a fait de bonnes études, un curriculum ni banal ni formaté, nous dit l'AFPCJ.
C'est un petit peu comme Jacques Chirac quand il sort de l'hôpital qui dit j'ai été bien soigné.
J'ai été bien soigné. C'est pas possible. Président de la République, vous avez été bien soigné. Vous êtes là, quelle chance vous avez.
Là, on est étonné qu'elle ait fait de solides études.
Vous avez vu quand même la tête qu'il avait en sortant? Moi, ils nous ont expliqué que c'était pas grave, son truc, mais franchement, j'ai peine à croire. Hein, là... Parce qu'il était quand même un peu éteint. Hein. Et... Il est toujours un peu confus. Oui, vous voulez dire quelque chose?
Oui, je voulais dire, et la tête, surtout de Bernadette, qui a été vraiment...
Non, mais Bernadette, c'est autre chose. Bernadette, non, tu rigoles, Bernadette, elle s'est dit, ouf, enfin débarrassée, puis le voilà qui revient. Elle a raté son coup.
Non, Bernadette, c'est le dernier, c'est le grand argument...
électoral?
Pour moi, c'est le enfin, c'est le, pas électoral, parce que Jacques Chirac...
Ne faites pas de peine à Bernadette, réunissez-vous.
Ne va pas se... sans doute, enfin, normalement, il se représentera plus, quoi. Bon, de toute façon, il est déjà enterré dans la presse, mais sa femme est vraiment médiatisée depuis quelques semaines. On la voit dans tous les magazines, alors que c'était un personnage qu'on voyait pas du tout. De 95 à 2002, c'est un personnage qui est totalement éliminé au profit de sa fille Claude. On ne voit que Claude.
Bon. Depuis quelques temps.
Et depuis quelques mois. Et là, elle est omniprésente. Elle a le côté, alors qu'il y a encore un livre là qui sort sur
Il y a une grosse erreur de communication.
Sur les aventures de son mari. Ouais. Ils mettent sa femme en avant. Pour donner une espèce d'esprit de famille qui n'existe pas. Et là, elle est omniprésente depuis les problèmes
avec,
médicaux de son mari.
Une énorme erreur de communication, je le signale à Claude. Claude, tu écoutes, je te signale que moment elle a déconné parce que elle s'est fait photographier devant l'hôpital ou faisant un petit geste de la main. Vous avez vu cette photo? À travers la vitre de la voiture, elle fait un petit geste de la main gauche, et elle a une montre qui, à mon avis... une montre de 457 kilos, entièrement incrustée de diamants. C'est un truc qui doit avoir le prix d'un Airbus. En ce moment, moi je trouve que c'est pas très futé comme...
Réglé avec le même argent que les voyages.
Probablement, il a dû revendre les tapis. Voilà, alors il y a quand même une bonne nouvelle. C'est le populisme de droite crée la surprise à Oslo. Alors, le journal nous dit ici, la plupart des commerces, parce que le populisme, il s'interroge, mais pourquoi dans un pays parfaitement économiquement équilibré, où il y a 175 milliards d'euros de magots à cause du pétrole, auquel la loi interdit de toucher, alors, je ne sais pas ce qu'ils font du fric, ils doivent fabriquer des briques d'or, puis se faire des murs avec, je ne sais pas. Donc, comment dans ce pays on peut voter pour un leader populiste de droite alors, ils s'interrogent gravement, et puis, alors ils expliquent, ils ont fait un reportage, sans comprendre pourquoi. Alors, je vous lis un extrait du reportage. Ici, la plupart des commerces sont tenus par des Pakistanais et des Turcs, comme la plupart des capitales européennes. Oslo est devenue une cité multiculturelle. Les Pakistanais, 35 à 40 000 personnes, forment la plus forte minorité du pays. Depuis 20 ans, et alors, voilà, ils ne pensent même pas qu'il pourrait y avoir peut-être une légère relation entre le fait que tous les commerces soient tenus par des Pakistanais et que les gens votent pour les partis populistes. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Hein. C'est un peu comme si en France on disait que les gens votent Le Pen parce qu'il y a trop d'Arabes. Alors que, évidemment, ça n'a rien à voir. D'abord parce qu'il n'y a pas trop d'Arabes. Faut le dire quand même.
Non mais en plus c'est pas un parti qui a surgi du néant, hein, puisqu'il était représenté dans le précédent parlement où ils avaient fait 12%.
Oui,
donc là, ils ont à peu près doublé leur score. Comme c'est un pays où il y a une où fonctionne, bon, pour simplifier, où fonctionne c'est un système à la proportionnelle, ils sont bien représentés. Mais c'est pas du tout une découverte. Le parti du progrès, en plus, il en existe au Danemark, pratiquement la même chose, etc. Bon, c'est un parti ultra-libéral et
il a quand même dit, le gars, qu'il avait rien à voir avec Le Pen. Hein. Il le répète chaque fois qu'on lui pose la question.
Mais ils n'ont strictement rien à voir avec Le Pen. Leur point d'accord, c'est l'immigration. Mmh. Mais c'est vrai que globalement, c'est pas du tout un programme. Il n'y a pas de programme social dedans, etc. C'est un programme d'inspiration libérale américain.
Alors il y a une phrase extraordinaire dans ce papier. Ouvrez les guillemets. Oui, il y a des discriminations à l'embauche et du racisme, reconnaît Hussein, 25 ans, né en Norvège de parents pakistanais. Mais ce jeune chauffeur de taxi ne se plaint pas. Il gagne confortablement sa vie avec 5000 euros par mois. En plus du taxi, j'ai deux restaurants. Si tu travailles dur en Norvège, tu peux réussir, raconte-t-il dans un anglais qu'il maîtrise aussi bien que le norvégien et l'ourdou. L'ourdou.
Une des deux langues du Pakistan.
Une des deux langues pakistanaises. Bien sûr, on paye beaucoup de taxes, mais l'école et l'hôpital sont gratuits, et vous recevez 32 000 euros pour une naissance. et vous et votre ou votre épouse, vous pouvez prendre un an de congé parental. Alors évidemment, ça comprend que là, il ne faut pas presser de retourner à Kuala Lumpur, non ? Comment s'appelle la capitale du Pakistan ? Vous savez ça, vous ? Tiens, on va jouer au trivial poursuite.
Lahore.
Non, Kuala Lumpur, c'est autre chose. Voilà, et puis quand même, il faut dire un mot de l'organisation des futures élections parisiennes, parce que ils ont décidé de faire ça honnêtement cette fois-ci. Donc ils font des primaires. Non, mais blague à part. Ils font des primaires. Donc, des primaires. Alors, ce matin, on a annoncé quelles étaient les quatre têtes d'affiche de la droite parisienne qui ont passé sans encombre le premier tour des éliminatoires, reléguant loin derrière les six petits candidats qui s'étaient pris au jeu. Les nominés sont tous députés et pour la plupart héritiers de la Chirac municipale. Tiens, curieux. Claude Goasguen, président du groupe UMP au Conseil de Paris. Jean Tibéry, maire du 5e arrondissement, qui à 70 ans fait sans doute là son dernier tour de piste, t'as qu'à croire. Hein. Dupont des Loges, il a arrêté à 90 ans alors. Hein. Françoise de Panafieux, maire du 17e arrondissement et amie de Cohn-Bendit. Et Pierre Lelouch, qui promet une campagne ludique à ses concurrents. Vous connaissez Pierre Lelouch ?
Oui, très
vous,
bien.
Vous le trouvez ludique, vous ? Là, si vous met une claque et vous rate, il vous enrhume. Hein. Alors, comme ludique, j'ai déjà vu mieux. Le personnage est assez sympathique, d'ailleurs. Enfin, on n'a pas envie de luder avec lui. Hein.
Il lui arrive même de fréquenter l'Alzaco.
Oui, forcément. C'est un bon restaurant, donc il y va. Il est pas fou, il sait où on mange bien.
Restaurant de spécialité quand même alsacienne.
Bah oui. Et alors, il retrouve une tradition. Et alors, vous savez qui a organisé tout ça ? C'est pour vous dire à quel point ils ont insisté sur le caractère honnête de la chose. Hein. Il faut que ça soit honnêtement fait, honnêtement monté. Le président du comité de contrôle qui a dépouillé les parrainages requis pour participer à la seconde phase des primaires, vous savez qui c'est ? Robert Pendreau. Donc vous pouvez être tranquille, ça a été fait avec un souci de rigueur absolument incontestable. Bon, Pendreau, il a quand même été ministre de l'Intérieur hein, et de la Sécurité publique. Donc c'est forcément un type honnête. Voilà, c'était les nouvelles du jour. Vous avez des commentaires de votre côté, Emmanuel ?
Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle de politique française.
Ah moi je veux qu'on parle de ce que vous voulez. Moi j'aimerais bien que vous nous parliez de politique française, que vous nous livriez quelques... Tiens, il y a un auditeur qui nous dit « Dieu donné et donne Dieu même combat ». C'est vrai d'ailleurs, je n'avais même pas pensé. Ah oui, la capitale du Pakistan est Rawalpindi. Vous êtes renvoyé, Toris. Hop, allez, au coin. Et moi aussi, d'ailleurs, dans l'autre coin. Alors, bon, c'est vous, docteur, qui avez annoncé Rawalpindi ? Non ? Bon, enfin, quelque chose que le docteur ne sait pas. Oui, parle du docteur Planté, là.
Non, mais toujours est-il que... c'est un truisme, mais il y a une accélération du calendrier politique. Il y a des moments où on sent que ça patine, enfin qu'il se passe rien en fait. Bon, et là c'est assez intéressant parce qu'il y a bon sans que ça soit fondamental, mais il y a un peu ce que Solzhenitsyn appelait les nœuds de l'histoire quoi. Bon peut-être que c'est de l'histoire de la petite politique politicienne, mais avec l'accident vasculaire.
Petit accident.
Oui, le petit accident.
Il est en pleine forme.
Vasculaire, cérébral quand même. De Jacques Chirac, le calendrier politique a pris au minimum un an d'avance, aussi bien à gauche qu'à droite. Avec, on a l'impression que tout le monde, enfin, il se trompe peut-être, mais tout le monde tape sur une présidentielle anticipée, quoi.
Le Pen l'a dit très clairement.
Voilà. Il n'y a pas que Le Pen. C'est pour ça qu'ils sont obligés tous d'abattre leurs cartes. Pour être candidat, parce qu'il faut pas s'ils sont candidats trop tard, ils n'ont aucune chance d'être dans l'équipe qui va concourir quoi.
Il y a aussi une espèce
mais c'est aussi bien à gauche qu'à droite.
Distribution des cartes, parce qu'on voit bien que bon, c'est parfaitement évident que Sarkozy chasse sur les terres du Front National aussi, que Villiers fait la même chose. Et que curieusement, on a foutu dans les pattes de Sarkozy Villepin, lequel lui chasse plutôt sur les terres de gauche. Si on en croit les médias aujourd'hui, qui expliquent que c'est le candidat de droite favori de la gauche.
Oui,
mais le numéro de des Guignols était très drôle d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview hier soir de Hollande. Et alors, monsieur Hollande, qui choisissez-vous aux élections au deuxième tour? Alors Hollande, enfin la marionnette de Hollande reste toujours dans le flou confus comme d'habitude. Et le gars est donc PPD insiste en lui disant mais alors qui choisissez-vous, Villepin ou Sarkozy? Alors non, il faut d'abord choisir, il faut un candidat pour socialiste, nous aurons un candidat socialiste. D'accord, donc vous voulez dire que c'est pas vous, c'est le candidat socialiste qui au deuxième tour devra décider si on vote Hollande, si on vote Villepin ou Sarkozy. C'est tout à fait l'impression que ça donne, quoi. Il joue les deux candidats.
Non, mais selon moi, le jeu est vraiment ouvert, là. On a distribué les cartes. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le jeu est aussi ouvert qu'en 2002. Et même plus ouvert qu'en 2002, parce que, si vous voulez, bon, pour simplifier, à droite, Bayrou, président de l'UDF, il est candidat. Oui. Sarkozy sera candidat quoi qu'il arrive. Bon, il maîtrise les primaires à l'intérieur de l'UMP. Mais le problème, c'est que les primaires ne sont pas dans les statuts de l'UMP. Donc il faudrait d'abord qu'il fasse faire un changement dans les statuts. C'est évident que Villepin sera candidat, parce que, par exemple, il y a un truc qui est typique, c'est Villepin qui a annoncé, bon, aux jeunes de l'UMP, mais à la France, que Chirac était malade. C'est lui qui était chargé de dire, de révéler que Chirac était malade.
Mais à votre avis, comment ça peut se passer la candidature de Villepin et de Sarkozy?
Parce que aurez exactement comme Balladur et Chirac. Aucun n'a été exclu du RPR en 95.
Les gens, ils ont dit. Oui, c'est vrai, on oublie ça.
On oublie complètement ça. Donc, pour moi, il y a déjà trois candidats. Bon, normalement, il y aura Jean-Marie Le Pen ou un représentant du Front National. S'ils ont leur signature, ce qui est un gros problème en cas de présidentiel anticipé. Et puis vous avez Philippe de Villiers. Et Philippe de Villiers, c'était intéressant que la question que vous posiez tout à l'heure à Bernard, Philippe de Villiers il avait un petit peu commencé avant, mais en trois semaines, il a complètement changé son discours. Et depuis une semaine en particulier. Quand vous voyez qu'il a commencé par déclarer qu'il était prêt à intégrer Bompard, il a dit qu'il était prêt à prendre tous les cadres et militants du Front National qui viendraient, il l'a dit. Bon, c'est quand même la première fois, et il se considère, bon, il est toujours dans la majorité présidentielle. C'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il les prend en tant que tel. Personne ne les a jamais pris. Son secrétaire général, Pelletier, pas Martin Pelletier, un jeune, le secrétaire général, c'est l'ancien secrétaire général du FNJ. Mmh. Le responsable départemental dans toute une partie de la France, ce sont des anciens du FN. Voilà. Et puis surtout, il a complètement changé son discours, c'est-à-dire que après l'accident de Chirac, il a dit qu'il voulait créer un grand mouvement national et populaire. Oui. Enfin bon, c'est le vicomte, mais d'un autre côté, c'est national et populaire.
C'est à quoi Le Pen a répondu d'une façon assez drôle. Il faut reconnaître l'électorat de Villiers, c'est entre la messe de 11h et la pâtisserie.
Oui, mais
ça c'est du Le Pen pur.
Le problème, c'est un bon mot, etc. Mm. Mais il représente entre 10 et 15% de l'électorat. Villiers l'a montré quand même plusieurs fois. Ça fait un bout de temps qu'il est élu, hein. Il a pas
d'implantation ailleurs que dans sa Vendée natale.
Et pas du tout, ils sont en train de se développer partout. Attendez, ils ont recréé. Enfin bon.
Non, je sais pas, moi je pose la question.
Mais il aura ses signatures et il fait vraiment.
Non, on sait bien que je suis pas partisan. Hein,
mais il fait vraiment.
Le Pen, c'est tout, voilà.
Mais il fait une ouverture.
Lors de ça, j'en veux faire ça.
Il a complètement changé son discours. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et ça, c'est dû à l'accident de Chirac. Parce que c'est pas compliqué. Il se dit, si Jean-Marie Le Pen n'a pas ses signatures, moi je peux parfaitement arriver au second tour. Vous comprenez? Parce que le gâteau de l'électorat, on part pas de 100%. On commence par partir. Bon, en gros, la France est 50-50, enfin, depuis un bout de temps. Bon, même, et puis, comme la droite.
Bah, c'est le calcul de Le Pen, c'est ce que
donc, c'est plutôt 50-100%. Donc, ça veut dire quand même que vous avez,
10% par tête.
5 candidats.
Ouais, 5 candidats pour 50 si on répartit.
Donc celui qui fait
15, il est bon.
même 12-13%, si c'est bien distribué, il peut arriver en tête. Ouais. Bon, c'est exactement ce que tape sur Villiers. Parce que Villiers, il n'a aucune raison de faire une ouverture, de faire des grosses sorties sur l'islam, qui Le Pen serait tout de suite poursuivi. N'importe qui.
Est-ce qu'il est poursuivi d'ailleurs.
Oui, non, mais pour son truc de juin, là, sa sortie de juin. Mais ce qui est absolument incroyable, c'est qu'il n'y a pas un membre de l'UMP qui a dit ce que dit monsieur, ni de l'UDF, a dit ce que dit monsieur Villiers, scandaleux. Bon, or, vraiment, il a eu des déclarations très, très musclées.
Oui.
Voilà. Bon, et à gauche, c'est exactement pareil. À gauche, c'est fascinant parce que vous avez José Bové qui est entre l'altermondialisme et Coluche. Enfin bon, qui peut dépasser son truc. Bon, vous avez Marie-Claude Buffet qui va forcément être candidate pour le Parti communiste. Ils ont la plantation. Ils se sont trompés une fois en 60... ils se sont trompés une fois en n'étant pas candidat, et ça a permis à Mitterrand de percer en 74. Donc ils vont pas refaire les mêmes erreurs. Bon, vous avez les Verts qui vont évidemment être candidats aussi. Vous avez Besancenot qui va être candidat. Je sais pas si la lutte ouvrière va présenter un candidat. Et puis après, vous attaquez les gros, c'est-à-dire Fabius, Strauss-Kahn, Hollande ou Ségolène Royal, enfin le couple, le tandem, quoi. Bon, ce qui est fascinant, si vous voyez par exemple, Laurent Fabius, qui va à la fête de l'humanité, même s'il se fait cracher dessus, quoi. Non mais les gens lui ont craché dessus.
C'est incroyable.
Mais vraiment craché. Bon, il s'est pris des yeux et tout, il est quand même resté.
Ah non, il a été assez... Moi, j'ai vu, il a été assez gonflé, quand même. Il est courageux, ce petit bonhomme.
Non, mais c'est la première fois où il y allait. Et ce qui est fascinant, c'est ce que personne n'a remarqué, Strauss-Kahn, où est-ce qu'il était? Il était à la fête de l'Unita, en Italie.
C'est pas fou, lui.
Non, mais... Il le marque à la culotte. Bon, il peut pas être à la fête du PC en France, il va à la fête du PC en Italie.
Ils sont partout.
Bon. Et donc... Pour la vérité, je trouve que le jeu est très, très ouvert.
C'est intéressant.
Alors, la seule chose qu'il y a, c'est que le calendrier économique...
C'est le moment de faire un coup d'État, quoi, en somme. Non, mais franchement...
Tout le monde avait ri. Peu de gens, mis à part Jean-Marie Le Pen, avaient envisagé qu'il serait au second tour. Mais... je pense pas pour le moment. Mais on peut parfaitement avoir Villiers-Bové. Hein. Non, mais... Ça paraît étonnant, mais c'est du domaine du possible.
C'est le couronnement de la démocratie.
Bon. Donc, je trouve que la politique française, en ce moment, est vraiment intéressante.
Oui, c'est amusant, hein, c'est vrai.
Parce qu'ils partent tous pareil. Et puis, ils font des ouvertures absolument incroyables. Le problème, ils font tous une campagne de second tour. L'erreur qu'a fait Jospin en 80, en 2002, c'est que ils font tous une campagne de second tour pour essayer de rassembler. Ouais. Fabius, il est bien avec tout le monde. Il est bien avec Bové. Donc si Bové est candidat, il se désistera pour lui. Marie-Claude Buffet est bien avec lui. Besancenot, ça commence à aller.
Marie-Georges,
c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas encore candidat.
Ouais.
Ils font tous une campagne de second tour.
Oui, c'est incroyable. Ouais, voilà. Mais est-ce qu'on va alors parce qu'il y a quand même un événement éditorial et politique qui se prépare là. Enfin, voilà, vous nous sortez cette encyclopédie politique qu'on attend depuis 67 ans à peu près, je crois.
Non, depuis 13 ans.
Non, 13 ans seulement, voilà. C'est marrant, le temps m'a paru plus long.
Ouais. Donc j'ai sorti le premier volume donc de l'encyclopédie politique française, ça couvrait à peu près 1980-1992. Mais un peu plus large, par exemple Mitterrand, je l'ai repris dès le début, j'ai retracé son parcours comme Chirac. Bon. Et puis donc là, effectivement, courant novembre, enfin en tout cas avant Noël, donc sortira le deuxième tome, mais qui est indépendant du premier, qui se lit tout seul. Je reprends rien de ce qui était dans le premier.
C'est pas une série télé, quoi.
Voilà.
Pas besoin d'avoir vu l'épisode précédent.
Pour non, non.
Ça doit être très attendu dans les rédactions, parce que je crois que vous êtes probablement... Non, mais je dis sans flatterie, hein. Je crois que vous êtes probablement le journaliste le plus pillé de l'édition française. Quand on a lu, comme moi je vais toujours vérifier mes informations ou vérifier mes références dans l'encyclopédie de Ratier, à force, je la connais pas par cœur, mais je finis par bien la connaître. Et quand on lit la presse, on voit à chaque fois les mecs, putain, ça c'est du Ratier, ils sont allés piquer sa chère. Vous n'êtes jamais cité, pratiquement jamais.
Ah et... non, mais il y a des gens, c'est... non, mais c'est vrai, c'est pas pour me vanter rien, mais il y a des gens qui font pratiquement leurs articles, ça arrive que de temps en temps je lis des articles, on a l'impression même des livres, hein. Ils sont sortis, il y a des chapitres, ils sont sortis, donc, ils ont plié, par exemple, enfin, juste pour donner un exemple, bon, je fais un portrait, hyper fouillé, il n'y en avait jamais eu comme ça, pas dans mon encyclopédie, mais dans ma lettre, fait document, je fais un portrait hyper fouillé il y a quelques mois de la famille Wertheimer. Il y avait rien sur eux. C'est propriétaire notamment de Chanel, et c'est le deuxième groupe d'édition en France. Et
ils sont absolument pas médiatisés. Bon, on en parle jamais.
Mais non, mais ce sont des gens qui refusent qu'il y ait des photos et tout. Bon, moi je pouvais pas aller plus loin. J'avais énormément travaillé. Il y avait toutes les pistes. L'Express a fait 6 numéros d'été dessus. Non, non, mais bon, c'est peut-être un hasard, mais toutes les pistes étaient là. Donc moi, je l'ai lu avec intérêt, parce que en gros, ils suivent exactement la même chose, parce qu'ils ont été, et ça leur permet de parler de Coco Chanel, sa lutte pour reprendre son empire, son entente avec les Allemands, en fait, etc., la spoliation des Juifs pendant la guerre, en fait, etc., tout ça. Bon, mais toutes les pistes y sont. Bon, je parle d'un type sur lequel j'avais 3 ou 4 renseignements. Ils en ont fait 5 pages.
C'est ce
donc je suis surpris parce qu'il n'y avait jamais eu un seul article avant. Bon, alors de temps en temps, je vois ça. Bon, moi, ça me fait plaisir. Hein.
C'est ce qui s'était passé quand on a fait pour Minute et pour le Crapouillot il y a maintenant 25 ans, le fameux numéro du Crapouillot qui était Mitterrand très secret, où on avait sorti des pistes comme ça.
Oui,
d'ailleurs, curieusement, moi, j'étais très fier de ce qu'on avait trouvé et tout. Et puis. Tous les papiers étaient écrits, tout ça. On a quand même trouvé des trucs formidables, hein, sur son passé, sur son évasion et tout. Et puis, il me vient une idée, je me dis, je vais quand même, après tout, j'ai pas regardé ce que disait,
Henri Coston.
Coston. Je vais regarder ce qu'il y avait, tout dans Coston.
Non, il y avait,
il y
avait pas mal de,
Et je vous jure qu'on l'avait pas lu, moi j'avais pas lu avant. On a j'ai découvert après que Coston avait levé tous les livres. Et
ce qui est vrai, c'est que le bouquin de Pierre Péan il a eu des trucs évidemment parce qu'il a bossé. Pas, mais d'ailleurs, il est allé voir Coston et d'ailleurs Coston en avait parlé et il est pas dans les remerciements.
Ouais.
Bon, avec le boulot qu'il avait abattu là-dessus, c'est bien. Mais moi, vous prenez le premier volume de mon encyclopédie politique, je dis que Lionel Jospin était trotskiste, hein.
Ouais.
Chute de source, etc.
Absolument.
Bon.
Et les mecs ont découvert ça.
Ce qui est important, c'est que l'on parle.
Oui, voilà.
Non, mais c'est vrai. Je sais que je suis l'usuel le plus utilisé à la Bibliothèque nationale pour la politique française des 20 dernières années. Hein.
Alors le 2, il paraît quand?
Donc il va paraître courant novembre là. Et donc je fais une souscription pour le financer parce que je l'édite moi-même quoi. Alors il va faire, il sera plus gros que le premier. Il va faire
pareil relié en toile comme
Oui, pareil bleu. Il va faire 1 millier de pages. Mais comme j'avais trop à écrire, j'ai baissé le caractère. Donc on va me le reprocher.
Oh là là, mais pas.
Et il faudra peut-être que j'offre une loupe.
Une, voilà, j'allais vous dire, mettez une loupe
pour permettre de le lire.
En plus, les loupes plates qu'on pose sur la page, c'est très bien.
Oui.
On peut les poser sur la plage aussi, mais pour d'autres raisons.
Donc on y trouvera quand même pas mal de choses quoi.
On peut le commander tout de suite là.
Oui, ben c'est marrant. Enfin bon, c'est pas compliqué. En souscription avec le port, il est à 75€ en ce moment, et à la sortie, il sera 98€ plus le port. Bon, donc si les gens ont envie de se faire plaisir avant Noël, ils peuvent se l'acheter. Hein.
Ouais.
Ils le paieront quand même à peu près 30€ de moins quoi.
Ah oui, c'est bien.
Voilà.
75€, ça fait quoi? Ça fait 500 francs, à peu près.
Bah, le premier, il coûtait 485 francs. Hein. Donc on peut pas dire que j'ai beaucoup augmenté. Hein.
Mais c'est vraiment une...
Mais, mais surtout l'intérêt, bon, vous le savez, Serge, ou les gens qui sont abonnés à mon bulletin, il y a une foultitude de détails. Bon, il y a des erreurs, forcément. Je veux dire, quand on, dans une page, j'ai regardé, il y a à peu près 7500 caractères par page, c'est-à-dire, c'est l'équivalent, le bouquin que je sors, c'est l'équivalent de 40 livres normaux.
C'est fou.
Bon. Donc, quand on ne met que des renseignements, des détails, l'endroit où la personne a vécu, sa date de naissance, le résultat des élections, les circonscriptions, ses adversaires, bon, il y a forcément des petites erreurs qui s'y mettent. Donc je sais qu'il y a des erreurs. Bon, je sais qu'il y en a le moins. Mais surtout, bon, ce que je fais, c'est comme dans le premier, encore plus, tout ce qui paraît un peu étrange, bon, est référencé. Par exemple, bon, un exemple, Alain Juppé, pour qui il a voté en 69. Il a voté pour Alain Krivine. Bon, il a donné une entretien dans lequel il l'a lu, dans lequel il l'a dit. Bon, ben, je mets la référence du journal. Bon, c'est un exemple, je sais. Bon,
par exemple, Jean-Jacques. Ils sont parfaits, tous ces.
Jean-Jacques de Peretti. Bon, qui a été, bon, on a déjà oublié, mais dans les années 90, si on sort son bon de 93 à 95, il a été ministre des Dom-Tom. Bon. Accessoirement, c'était le premier mari de Madame de Vieux-Jeancourt. Bon, il est un peu connu pour ça. Bon, mais il a donné un entretien une fois où il explique qu'il connaissait rien au dom-tom.
De Vieux-Jeancourt, faut rappeler, c'était la putain de la République, hein. Oui, c'est celle qui s'était auto-proclamée putain de la République, voilà. Dans ses mémoires, parce qu'elle
et qui avait, doit sortir un bouquin à fin d'année qui s'appelle Merci Roland.
Avec Roland Dumas. Voilà. Lui payait des chaussures. Bon, ou elle lui payait des chaussures.
Bah, une fois, il a donné un entretien à un journal, c'est pas une invention, pendant lequel il dit, je connaissais rien au sujet, je suis allé m'acheter le que sais-je sur les dom-tom. Bon, bah. J'avoue que je trouve ça marrant. Bon, un autre exemple, c'est par exemple François Hollande. Son père a conduit une liste municipale Algérie française à Neuilly en 1961 ou 62.
Ah ouais. Bon, et je pense pas lui, son père.
Non, mais bon, voilà, bon. Donc ça permet d'éclairer. Bon, c'est pas un livre ni de dénonciation ni de scandale, mais
non, mais c'est très marrant à lire parce qu'à chaque fois
on voit l'évolution des gens.
Enfin, là, bon, je parle, moi, j'ai pas lu le deuxième, bon, mais le premier, c'était ça.
Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les passerelles, les passages, des gens qui viennent de la droite, qui vont vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Je crois que c'est Maurice Leroy qui est député de UDF de d'un département. Enfin, je l'ai pas en tête, genre Maine-et-Loire.
Oui, c'est communiste.
Ça. Bon,
il a tout été
le bras droit de Bérou.
Ouais.
Bon, il y a 10 ans, il était permanent communiste.
C'est ça. Ouais.
Bon, c'est absolument fascinant. Et le type, il l'a été. C'était le coordinateur du groupe communiste au Sénat.
Je me souviens de ça,
bon,
parce que c'était un jour, roi comme
et il croisait souvent Charles Pasqua. Et un jour, Charles Pasqua l'a embauché. Et il a dit, hein, il a donné une entretien dans lequel il dit oui, je l'ai pris parce que maintenant je vais avoir une grosse voiture, une secrétaire, je vais commencer à gagner de l'argent. Bon, c'est un type assez marrant. Bon, et comme c'est un organisateur efficace, parce qu'il est passé par les écoles de cadres du parti, il a fait un truc que personne n'a réussi en France, c'est que aux dernières élections, je crois qu'il y a 4 circonscriptions dans le Maine-et-Loire, les 4 ont été gagnées par des députés UDF. Non, mais. Bon, bah, je trouve que c'est intéressant des gens comme ça. Bon, il y en a d'autres qui ont moins d'intérêt. Mais en général, bon.
Je suis dedans en plus, hein.
Oui, vous êtes.
J'espère que vous m'avez mis parce que vous m'avez tanné pour avoir une notice, enfin des éléments pour faire une notice.
Et il y avait même des choses que vous aviez oubliées.
Oui.
Vous m'avez dit.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, d'ailleurs. Il m'a révélé des choses sur moi. C'est Madame Irma. Hein. C'est extraordinaire.
Voilà, bon, donc, bon, enfin, je le dis.
Alors, donc, rappelons l'adresse.
Donc, on peut m'écrire à Fait et Document, BP254. 75-424, Paris CEDEC 09,
ou alors 75-424, c'est pas à peine de le répéter deux fois, on l'écrit une seule fois.
Oui, Paris CEDEC 09. Et sinon, on met Fait Document dans un moteur de recherche et on trouve mon site internet où il y a mon adresse.
Donc, Victoria va nous répéter l'adresse.
Et les gens, je peux leur envoyer, d'ici une semaine, il y aura un prospectus, que je leur enverrai.
Boîte postale 254, c'est pas la peine de l'écrire puisqu'on va le répéter ensuite. 75-424, Paris CEDEC 09.
Oh, c'est ça.
Hein? Est-ce qu'il y a eu des messages pendant notre absence?
Monsieur Ratier, pensez-vous que s'il était président, Sarkozy serait plutôt du côté de la droite de Villiers ou du côté de la droite molle?
Mais c'est si.
Si, le nez de
clé. Bon. Si. Non, mais si vous voulez, bon, par exemple, tout le monde dit qu'il a en ce moment une espèce de veine populiste. Il faut nettoyer au Karcher les 4000.
Ouais, ça, c'est des paroles verbales, ça.
Ce qui est assez amusant, d'ailleurs, c'est que Karcher, marque déposée, n'a pas porté plainte. Ouais. Ça a dû leur faire une bonne pub. Moi, à leur place, j'aurais fait une affiche avec Sarkozy, nettoyer tout au Karcher.
Sarkozy à l'intérieur.
Bon. Mais il a donné une interview au Monde, un entretien au Monde la semaine dernière. Bon, dans lequel il dit un certain nombre de choses, mais il y a un passage qui est absolument fascinant, qui a été repris nulle part, dans lequel il dit « Mais je suis le plus à gauche des ministres, grâce à moi, j'ai supprimé la double peine et les immigrés doivent me bénir pour ça, etc. »
Ça, c'est du racisme, attendez.
Non, mais il fait toute une série en donnant les points pour la gauche. Moi, je prétends que, bon, c'est un tchatcheur, enfin c'est un vibrionnant, etc. Il est tout à fait capable d'attirer des gens de gauche. Bon, enfin il va y avoir quand même pléthore de candidats à gauche pour satisfaire les électeurs de gauche. Moi je crois pas tellement au principe des vases communicants. Bon, sauf à l'élection présidentielle de 2002. Mais enfin dans l'ensemble c'est assez stable.
Le problème de Sarkozy, c'est que pour l'homme politique, il a un défaut, c'est qu'il il n'aspire pas la fidélité à son électorat.
Non, mais de toute façon, non, mais c'est le grand principe. Les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent.
Bon. Ça, c'est ce qu'il a appris ça de Pasqua quand il l'a quand il l'a d'ailleurs roulé dans la farine, parce qu'il faut pas oublier qu'il a bien roulé Pasqua dans la farine. Il est
ça, je le raconte longuement. Si vous voulez, par exemple, Sarkozy, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit à Radio Courtoisie, pour moi, c'est un homme politique, un véritable homme politique. On peut ne pas être d'accord avec lui, le trouver petit, laid, hâbleur, etc. Mais c'est un type, on lui écrase la figure, il revient le lendemain.
Oui.
C'est un homme qui sait rebondir.
Il vient par la fenêtre, il vient par la cheminée.
Attendez, il a essuyé quand même 3 échecs très importants. Il a été bon, il y a eu l'affaire avec Balladur. Bon, où attendez, n'importe tous les types de l'époque Balladur étaient grillés sous fruit. Or, il avait une espèce, il y avait une filiation avec Chirac, il y avait quelque chose. Il y avait, bon, il a fini par revenir et il ne l'en déteste pas moins. On croyait que c'était Chirac qui le détestait, mais maintenant on sait que c'est lui qui déteste Chirac. Bon, c'est quelqu'un quand même qui, on l'a déjà oublié, il était quand même président du RPR avant l'UMP, et il fait une liste commune, la fameuse liste, c'est Séguin qui démissionne, et donc il fait une liste aux européennes, Sarkozy-Madelin. Ils font un score inférieur à Philippe de Villiers. Ils font dans les 14,5% et Villiers fait 15-10, mes souvenirs. Il démissionne, mais il revient. Enfin, je veux dire, c'est un ressort, comme Chirac. Chirac, on peut ne pas l'aimer, mais c'est un homme politique, parce que c'est quelqu'un qui est capable d'être sur la durée et de revenir. Juppé, par exemple, ce qui est extraordinaire dans ce qui vient de se produire là avec l'accident cérébral de Chirac, c'est que Juppé, il est enterré. Gérard Villepin a pris sa place en 15 jours.
Ouais.
Parce que l'année dernière, on disait toujours Juppé va revenir, c'est le préféré de Chirac, etc. Bon, c'était plausible. Mais maintenant, il n'y a pas un type qui mettra un copec sur Juppé.
Oui. Juppé. Sauf Krivine, peut-être.
Non, mais Juppé, c'est pas. Non, Juppé. Non, Krivine avait fait, ça je le mets dans mon dictionnaire, un truc fabuleux. En 2000, je me souviens plus si c'était en présidentielle ou européenne, il avait dit si on fait plus de 5%, je me fais rabbin. Je sais pas faire rabbin, mais ils ont fait plus de 5%.
Mais il y a une clé pour, à mon avis, il y a une clé pour comprendre Sarko, c'est sa fascination pour Mandel.
Oui, mais il n'y a pas que ça.
Mandel, donc Clémenceau disait, il est bien ce petit Mandel, quand je pète, c'est lui qui pue. C'est formidable comme phrase. Dans la série des phrases de mépris absolu, c'est extraordinaire. C'est ça la politique, hein. Faut jamais oublier quand même. Il y a cette dimension dans la politique, la haine pure, le mépris.
C'est un super requin.
Ouais.
Attendez, un auditeur dit j'ai vu à Rennes un premier ministre taper sur le cul des vaches. Est-ce une déclaration de candidature?
Ou une déclaration d'amour, peut-être aussi.
Peut-être. Et puis, monsieur Attier, que se passe-t-il à Orange? Dites-nous tout.
Vous savez où?
Ils doivent réparer le théâtre.
Ah oui? Il faut demander à l'Orsay, alors c'est lui qui est au courant.
Bah non, mais Jean-Marie... Jacques Guépard devait être exclu du bureau politique du Front National le 4 juillet 2005. Il avait envoyé un avocat, qui est Ronald Perdomo, bon, qui est un avocat avec une certaine légitimité à la fois comme avocat et comme membre du Front National. Et comme la procédure, bon, je crois, avait pas été tout à fait respectée, ils ont été obligés de repousser après l'été son exclusion du BP. Je prends pas position, hein. Bon, il a été exclu finalement du bureau politique début septembre, et il a déclaré que avant que s'il était exclu du bureau politique, il considérait qu'il était plus au Front National. Bon, donc il est plus membre du Front National. Il y a des gens, bon, par exemple Libération a écrit que Jacques Bompard avait rencontré Philippe de Villiers. Bon, moi il m'a dit le contraire. Bompard. Donc il m'a dit c'est faux, je l'ai jamais rencontré, mais d'ailleurs c'est pas un secret, il l'a dit en conférence de presse, il a dit si Philippe devait me rencontrer, je serais ravi de le rencontrer. Bon voilà. Bon, mais je pense pas que ce soit quelqu'un qui se modère particulièrement et tout. Bon, je sais que le 12 fin septembre ou début octobre, il va au congrès du Vlaams Belang, quoi, qui est l'ancien Vlaams Blok. Il sera en vert avec des députés et maires de la Ligue du Nord, etc. Bon, ce qu'il y a, c'est sûr que, enfin, d'après ce que je sais, c'est que localement, c'est assez bien perçu, parce que ils ont toujours fait une politique de terrain, une politique locale, et je sais qu'ils ont pas mal de... Bon, ils ont quand même raflé pratiquement, enfin bon, à l'intérieur de, d'Orange, ils raflent plus de la moitié des électeurs, puisqu'il a été réélu avec un score record au premier tour. Enfin, il a fait, je sais pas, dans les 55-60%. Bon, donc, mais il y en avait d'autres, bon, qui étaient, mettons, UMP, etc., bon, qui disent c'est formidable que vous ayez quitté le Front National. Bon, je sais que eux n'en sont pas mécontents, parce qu'ils ont plus le problème de l'étiquette. Il est convaincu qu'il va être élu, sans doute avec de bonnes chances, député. Aux prochaines élections locales. Bon, peut-être avec, c'est possible qu'il y ait un rapprochement avec Villiers, parce que quand quelqu'un est d'accord pour vous accueillir avec vos idées et en vous donnant une place, mais pas en vous reprenant à la base, et en essayant que vous parliez jamais, un peu l'opération que Yvan Blot avait tentée à l'UMP.
Oui. Bon, bah, il y en a un qui l'avait réussi, c'était
Jacques Perrin
à Nice. Perrin à Nice, oui.
Voilà. Voilà ce qui se passe à Orange. Hein.
Voilà. Et à propos du Villiers, voilà les opinions des, enfin, divergentes de nos auditeurs. L'un nous dit, si Le Pen était un vrai patriote, il se désisterait aux prochaines élections présidentielles en appelant à voter de Villiers.
Celui-ci, mais on peut dire le contraire.
Attendez. Celui-ci passera le premier tour et face à un candidat de gauche au deuxième tour, remporterait la présidentielle. Et un autre, ceux qui vont miser sur Villiers seront trompés et trahis comme jamais personne ne l'aura été.
Oh, ça, comme jamais personne, je ne crois pas qu'on puisse dire ça, parce que c'est vraiment un électorat de cocu depuis tellement longtemps que je crois qu'ils ont une forte expérience de la chose. Nous avons une forte expérience de la chose, donc... je crois que c'est, là, on est dans un... D'abord, c'est marrant parce que vous parliez tout à l'heure des gens qui tirent des plans sur la commune dans la perspective du second tour, mais même les électeurs le font, puisque là, c'est une analyse de second tour. Pour l'instant, le premier tour, tout le monde se présente. Oui, et puis...
Et tout le monde ne pourra pas se présenter, d'ailleurs.
Tout le monde se présente s'il peut se présenter. Oui. Mais, cela dit, moi, j'étais tout à fait hostile à l'idée des parrainages, mais il faut quand même reconnaître que, même avec les parrainages, quand on arrive à 10, 12 candidats, on imagine ce que ça aurait donné sans les parrainages. Il y aura 500 000 candidats.
Non, mais un des problèmes,
c'est... Dont moi.
Mais
il y a plusieurs auditeurs qui le demandent. Quand serez-vous candidat au présidentiel?
Quand les poules auront perdu leur temps.
Non, mais là, ils sont tous affûtés pour ça. Ils sont tous les couteaux là, tout est prêt. Ouais. Parce que c'était bon, là ils ont. Je vous assure que tout le monde se place dans l'hypothèse d'une élection présidentielle. Là l'autre jour j'écoutais l'émission de Yannick Hurien, il avait invité, je me souviens plus, un publicitaire, bon qui lui avait une idée étrange mais amusante, je trouve. Dont personne n'a, enfin, à part ça, j'en ai bien entendu parler nulle part. Bon, c'est que si Jacques Chirac est empêché, il n'est pas obligé de dessiner, mais quand on lit la presse, etc., il peut être paralysé, n'importe où, il ne peut plus exercer le pouvoir. Bon. Il y a un gars dont personne n'a parlé, qui est un personnage dont personne n'a jamais parlé, c'est le président du Sénat, Christian Poncelet, qui devient président par intérim. Mais non, mais ne riez pas. Bon, c'est pas parce qu'il n'a pas été prévenu par l'Élysée, ce qui est une lourde faute. C'est une faute constitutionnelle là qui était commise, parce que il y a eu vacance du pouvoir. Après quatre personnes, personne ne savait où était Chirac.
Baden-Baden.
Mais c'est exactement comme un Apoer faisait rire tout le monde. Bon, il n'empêche qu'il a fait quand même 45% face au général de Gaulle.
Ah non. Qui Apoer? Ah non, il n'a pas fait 45% face à de Gaulle.
Ah bon. Bon, bah c'est possible.
J'ai pas le souvenir de ça.
C'est possible.
Alors, j'ai les premières attendues.
Pour moi, Limpoer était candidat en 65. De Gaulle démissionne en 68. Et Pompidou.
Non, c'est à la mort de Pompidou qu'il a été président par intérim.
Il a été président deux fois.
Deux fois, oui. Alors pourquoi? À la démission de De Gaulle.
Peut-être. C'est déjà, je suis un peu trop jeune. Donc, il est tout à fait potentiel, si j'étais né quand même, malheureusement, mais il est tout à fait possible que Christian Poncelet soit un éventuel candidat.
Ça serait le gag. Quand je pense qu'on s'est moqué, comment s'appelait le type qui vendait des tuyaux, là, qui s'était présenté aux élections présidence. Mais là, là vous, vous n'étiez carrément pas né.
Ducatel.
Ducatel. Voilà. Après Ducatel.
Louis Ducatel.
Louis Ducatel. Ça, on serait cru dans un film de Jean-Yann.
Et puis, monsieur Ratier, Sarkozy n'est pas un requin. C'est un silure, poisson carnivore d'eau douce qui se complaît dans la vase.
Voilà, joli. Bon, attendez, il y a quand même une... Je voudrais qu'on tire un truc au clair, parce que moi j'ai dit Kuala Lumpur. Quelqu'un nous a dit quoi, Islamabad ? Non, pas Islamabad, Lahore. Et alors il y a un auditeur qui nous téléphone, qui faxe, en disant... C'est en 67 qu'Islamabad est devenue capitale officielle du Pakistan. Alors, si quelqu'un peut nous... Je sais bien que les Français sont pas forts en géographie, mais là, je crois qu'on est en train de battre tous les records. Si quelqu'un peut nous dire quelle est la capitale du Pakistan. C'est un pays que... Enfin, c'est étonnant quand même qu'on n'arrive pas à savoir ça. C'est comme l'Australie. Quelle est la capitale de l'Australie? Voilà. Voilà, tout le monde répond Melbourne, c'est Canberra. Plus de questions.
Pour le musée, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, des arts populaires.
C'est des arts et traditions populaires.
Arts et traditions populaires. Ce musée a été ouvert en 1972. J'ai été, nous dit cet auditeur, l'électricien de ce musée. Mais il a été, malgré la bonne électricité, il a été très mal géré. Le ministère de la Culture avait délégué la gestion au CNRS.
Ah, bah, c'est
vive la gabegie.
Il n'était pas au courant. Cet électricien porte la responsabilité de...
De sources sûres, une parente travaille au service du relogement de la mairie du 11e. L'Africain, qui a 3 femmes et 22 ou 23 enfants, a été relogé dans 3 appartements.
Oui. Et, bah, vous c'est avez normal, vu, ça... il ne pouvait quand même pas rentrer dans un seul.
Un auditeur qui...
C'est une question de bon sens.
Il y a une vingtaine d'années, à l'école où j'étais, il y avait une famille comme ça. Il y avait 3 femmes et alors... Les cousines, enfin, on en avait une quantité industrielle qui était aussi logée dans 3 appartements, et le père. Et alors, il souffrait parce qu'il fallait qu'il se déplace quand même.
Ah oui, c'est fatigant, ça, c'est... Et puis en plus, les raisons pour lesquelles il se déplaçait étaient encore plus fatigantes.
Mais c'est quand même sympathique parce que pour les jeunes à l'école, on prend un bus collectif.
J'ai lu dans le Figaro, nous dit un auditeur qui s'appelle Philippe et qui se reconnaîtra. L'histoire d'une famille malienne expulsée d'un squat du 11e arrondissement qu'elle occupait illégalement depuis 4 ans et qui a refusé un appartement de 6 pièces qu'on lui donnait dans le 16e arrondissement. Elle touche 15 000 € d'allocation familiale, non 1 500 € d'allocation familiale. Et alors, ce que nous dit pas Philippe, c'est probablement parce qu'il n'a pas eu le temps de l'expliquer, c'est la raison pour laquelle ils ont refusé l'appartement dans le 16e. La matrone, la première épouse, a dit « Il n'y a pas de commerce de proximité. » Voilà. Vous nous rappelez, mon cher... c'est fini, on a fini.
Petite encore.
Alors une encore.
Je travaille au Louvre. Et au sujet de l'émir mécène...
C'est vous ?
Pardon ?
Je travaille au Louvre. J'ai dit, c'est vous qui travaillez.
Mais non, j'ai ajouté. Enfin, j'aurais dû ajouter. Nous dit cette.
Non, mais c'est lui, donc.
Ouais, vous m'avez coupé. Au sujet de l'émir mécène, je peux témoigner. Il a fait évacuer tous les agents femmes du Louvre pendant sa visite.
C'est incroyable. On a toléré ça. C'est incroyable.
Et puis on nous annonce.
Mais vraiment.
On nous signale que pour
avoir. Il n'a pas fait évacuer les Juifs ?
Ah, c'était moins visible peut-être.
Parce que s'il dit, moi, j'y vais pas des femmes quand je visite, bon, d'accord, mais je veux pas des Juifs non plus, qu'est-ce qu'on fait alors ?
Pierre Rosenberg a été expulsé.
C'est invraisemblable, enfin. Je suppose que le ministre qui lui a conduit la visite, surtout si c'est Don Dieu de Fabre, il avait le pantalon sur les chevilles.
Et on nous signale que pour avoir dit dans le Figaro du 17 juin « La patrie trahie par la République », Jean Raspail est assigné devant la 17e chambre au Palais de Justice le vendredi 16 à 13h30.
Exact. Et il gagnera, comme moi j'ai gagné. On a gagné. Voilà. Emmanuel, l'adresse à laquelle on peut commander votre encyclopédie, vous reste une demi-minute.
Bien, c'est la celle de tout à l'heure que j'ai perdue naturellement.
BP, fait document BP 254 75 424 Paris CEDEX 09.
Merci mon cher jeune camarade. Je crois que les auditeurs vous retrouvent demain dans l'émission de
Claude Giraud.
Vous l'embrasserez de notre part. Bien, alors, il y a une grave question qui vient enfin de trouver sa solution, parce qu'on a un témoin, on tient l'information de la bouche du cheval. Donc, c'est un ami qui est de passage à Radio Courtoisie et qui dit, Ayant entendu votre émission ce soir, je me permets, ayant été au Pakistan, de vous préciser que la capitale est Islamabad. Car la Chine est une très grande ville, et Lahore aussi. Rawalpindi est une ville secondaire. Voilà, comme ça, on va tout savoir du Pakistan. Et
on aura oublié dans 5 minutes d'ailleurs.
Dans 5 minutes, oui. Sachant que je n'ai pas l'intention d'y aller pour deux raisons. La première, c'est que ça ne m'intéresse pas. La deuxième, c'est qu'il faut prendre l'avion. Et qu'en ce moment, les avions, c'est quand on part, on n'est pas sûr de savoir.
Et encore, partons.
Et encore, oui. Voilà, ami de la Gnose, bonsoir. Alors, ça, c'est un auditeur que nous aimons beaucoup qui nous dit, dans le même genre de bêtises que celle que vous venez de citer, on peut évoquer, premièrement, l'obésité est devenue un phénomène de masse, obtenu sur France Inter. Et un autre propos, alors qui n'est pas une bêtise, parce qu'on ne peut pas dire que c'est une bêtise, puisque c'est Salsa Bertin qui l'a dit sur Radio Courtoisie, mais elle a quand même dit, à Oxford et Cambridge, l'homosexualité était latente. On se croit, elle mérite pareil. Une auditrice nous dit, il faut absolument lire Le jour où la France tremblera de Guillaume Bigot et Stéphane Berthomet. Édition Ramsay. Alors j'ai du mérite à faire de la publicité aux éditions Ramsay, parce que qu'est-ce qu'ils sont pas aimables et qu'est-ce qu'ils sont sectaires. Une fois je leur ai demandé un bouquin, ils m'ont envoyé au plot en disant qu'ils ne travaillaient pas avec les fascistes, surtout quand ils étaient extrême droite. En tout cas, bon, Le jour où la France tremblera de Guillaume Bigot et Berthomet, ça vaut 20 €. Si vous avez envie d'engraisser Monsieur Ramsay de 20 €, vous achetez ce bouquin, il paraît qu'il est très bien. Vous dites que Bush n'est pas responsable des inondations à la Nouvelle-Orléans. Voire, on entend dire qu'il aurait détourné des crédits destinés à la restauration des digues pour financer la guerre en Irak. Mais je crois que on entend dire est une sottise. Pour des raisons constitutionnelles aux États-Unis, c'est pas comme ça que ça marche. Je vais pas me lancer dans de grandes explications, mais il y a un papier extrêmement précis et passionnant qui est paru dans le Toronto, je sais plus, le Clairon de Toronto, le Times de Toronto, le Daily de Toronto, je sais pas, enfin un journal de Toronto, où le gars explique bien que le président des États-Unis n'est pas le roi des États-Unis. La meilleure preuve, dit-il, c'est que quand il s'est agi de décider de l'assassinat, car c'est le mot qu'il faut employer, de cette femme qui était malade et qu'on a laissé mourir de faim et de soif, alors qu'elle était dans le coma et qu'en cessant de la nourrir, Bush avait dit qu'il ne voulait pas de ça, et bien la Cour suprême a décidé que ça se passerait, même pas la Cour suprême, mais un petit juge local a décidé que ça se passerait comme ça, et ça s'est passé comme ça, cette femme a été assassinée. Et d'autre part, quand on étudie un tout petit peu, quand on lit la presse américaine, on voit bien que la responsable de l'incurie, c'est aussi le gouverneur, la gouverneure, comme on dit maintenant, de la Louisiane, qui a accumulé les imbécilités, qui a tenu des propos de bête sauvage et d'idiote d'ailleurs, puisqu'elle a dit que l'ordre serait rétabli par les unités de la garde nationale qui étaient rentrées d'Irak, où les hommes avaient appris à tuer. Et j'espère bien qu'ils sauront s'en souvenir, a-t-elle ajouté. C'est-à-dire que les pauvres gens qui étaient en train de patauger dans la boue, elles voulaient tout simplement qu'on les bute, parce qu'ils volaient dans les magasins pour avoir de quoi bouffer. Donc je pense pas que, pour une fois, Bush soit responsable de tout, quand même. Avez-vous connaissance du discours de Sarkozy le 11 septembre à l'occasion de la réunion de Saint-Égidio? On le trouve sur zenith.org. Sarkozy a dit notamment: vivre dans un monastère catholique est une forme de fondamentalisme. Je ne m'étonne pas de lui. Je ne vois pas d'ailleurs en quoi il peut savoir ce que c'est que vivre dans un monastère catholique. On ne peut pas dire que sa formation sur ce plan soit démontrée. Voilà. Donc un auditeur confirme que c'est bien Islamabad qui prolonge la vieille ville de Rawalpindi.
Au moins une dizaine.
Et Karachi est la grande capitale économique. Karachi, pour moi, c'est... Oui, c'est 77 gâchis à Karachi. Ma science s'arrête là. Voilà, d'autres choses?
Et on nous dit aussi. Vous, enfin, non?
Non?
Si, rien. Si, alors. Quand quelqu'un vous dit, j'apprends la triste nouvelle et présente toutes mes condoléances à Radio Courtoisie, pouvez-vous nous dire quand auront lieu les obsèques de Vladimir Vostok?
J'ai pas d'informations. Si quelqu'un le sait, peut nous téléphoner pour nous le dire, je le communiquerai, mais je pense que ça sera indiqué certainement demain sur sur nos antennes.
Pouvez-vous nous dire ce que devient votre dictionnaire de la colère ?
Il est en train de devenir un véritable best-seller. Je crois qu'on en a vendu, je sais pas, 200, 250. C'est fait trembler l'édition mondiale.
Peut-on nous indiquer comment et où s'adresser pour la souscription concernant
l'entreprise ? Et pourtant, il est intéressant, hein ? Je veux dire, voilà, il faut quand même que je fasse un peu de pub. Donc, le dictionnaire de la colère,
mais c'est... Oui, vos auditeurs vous adorent, c'est bien connu. Donc, ils vous apprennent quasiment par cœur à chaque fois qu'ils vous lisent.
Ouais, alors... ils pourraient réviser comme ça.
Peut-on indiquer comment et où s'adresser pour la souscription concernant l'encyclopédie d'Emmanuel Ratier ? Donc, je rappelle que c'est boîte postale 254 75 424 Paris CEDEX 09.
Et alors, vous envoyez 75 euros, vous le recevrez franco de port. Et si vous attendez trop longtemps, ça vous coûtera 98 euros plus le port. Donc, vous avez tout à fait intérêt à l'acheter maintenant.
Oui, c'est ouais. Sûr.
S'il vous reste de l'argent une fois que vous aurez acheté le dictionnaire de la colère, c'est quand même bien gentil, Ratier, mais franchement, le dictionnaire de la colère, il vaut combien ? 30 euros franco de port, 30 euros franco de port, et il est en vente 4 places France Lille, 75-010 Paris.
C'est bien.
Je me souviens de mon adresse. C'est comme l'ivrogne qui avait écrit son adresse au fond de son chapeau.
Alors, on vous donne des nouvelles d'Alain Poher. Alain Poher avait obtenu 23% au premier tour des élections présidentielles, soit plus de 5 millions de voix. Et ensuite, effectivement, au second tour, face à Pompidou, en 69, il a obtenu 41,8%.
Eh ben, ce qui prouve bien que la démocratie est un système formidable.
Voilà. Après la démission de Gaulle, en 1965, c'était Mitterrand contre De Gaulle. Ça, on veut bien le croire.
Mais... C'est tout.
Ben, ça a l'air, oui.
Bien, alors je me tourne
si, un auditeur, pardon, excusez-moi. Voilà. Après la disparition, c'est un appel au secours. Après la disparition de la librairie du Savoir, la librairie de l'Ancre est-elle aussi sur le point de disparaître, faute de visiteurs. Cette situation nécessite une large mobilisation.
Ah, et, virgule, elle aussi, virgule. Je croyais que c'était une question.
Je sais pas de quoi vous me parlez, là, mais ça ne fait rien. J'enchaîne. Cette situation nécessite une large mobilisation, point virgule. Dans le cas contraire, un des derniers espaces de de liberté disparaîtra. Donc, allez faire un tour le plus possible à la librairie de l'Ancre, 12 rue de la Sourdière. De la Sourdière, 75-001, Paris 1er.
Oui, si vous avez des livres à acheter, allez les acheter
ils ont beaucoup
librairie de l'Ancre. D'abord, il y a beaucoup de choses intéressantes, puis on n'en parle pas souvent, c'est vrai, parce qu'on n'y pense pas. On cite toujours les mêmes, c'est-à-dire...
On cite Duquesne, etc. Bon. Et la librairie du Petit Pont.
Voilà, c'est tout.
C'est tout.
Bon, alors maintenant, je me tourne vers mes deux invités, qui ont été d'une patience angélique, et pourtant, étant donné leur métier, ils avaient la possibilité de me taper si j'étais trop long, puisque...
Chez nous, on a l'habitude d'attendre. Hein,
ah bon, ça... Oui, c'est vrai. Oui. Il s'appelle, vous appelez toujours Jean-Christophe Carme.
Ça n'a pas changé.
Et Michel Tauris.
C'est ça, tout à fait.
Et vous représentez toujours le syndicat Action Police.
Exactement. C'est ça, absolument.
Et alors, je vous ai invité ce soir parce que... il y a eu un événement dans le monde du showbiz qui vous concerne directement, c'est-à-dire qu'il y a un rappeur qui s'appelle Monsieur R, c'est
Monsieur
ça ?
Monsieur R, c'est ça, oui.
C'est marrant d'ailleurs de s'appeler Monsieur R, parce que chez ces gens-là, c'est difficile à prononcer, comme c'est Monsieur O. Je sais pas comment il fait, enfin. Et donc il a écrit une chanson qui s'appelle France, F-R-A-N-S-S.
C'est ça. Exactement.
Dans laquelle il tient des propos qui vous ont paru finalement assez désobligeants.
Oui, tout à fait. Oui, de toute façon, je pense que au-delà de cet artiste et de finalement de son piètre exercice, puisqu'en fait c'est pas une musique particulièrement agréable à écouter. Enfin, cela dit, au-delà de ce simple artiste, il est important de mettre en évidence toute une scène en fait qu'on appelle une scène hardcore du rap français. qui en permanence, français, ouais, enfin du rap français, puisqu'en fait telle est sa dénomination, ouais, qui met en évidence en permanence une haine latente des jeunes contre l'État qui les héberge. Et puis il faut savoir quand même qu'ils ont la nationalité française. Il faut quand même savoir, ouais, qu'ils sont français.
Ils ont des papiers français.
Absolument. Donc cette scène est particulièrement émergente et Monsieur R, alias Richard Macchiella, donc auteur de France avec deux S, c'est a dépassé les bornes, je pense, puisqu'il a associé l'image à son clip et à des images et à un texte particulièrement violent et outrancier.
On va l'écouter. Je préviens les auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes toujours sur Radio Courtoisie. Ça va pas durer longtemps. Enfin, combien de temps ça dure, Franck? 2 minutes et demie, 3 minutes. Peut-être qu'on va pas passer les 3 minutes quand même, parce que là on va faire exploser toute l'audience.
Rassurez-vous, ça commence tout de suite très fort. Bon.
Alors, essayez de comprendre les paroles.
La France est une gare, n'oublie pas de la baisser jusqu'à l'épuiser. Comme une salope, faut la traiter, mec. Mais n'oublie pas qu'ici c'est chez toi. Mets-toi à l'abri, nettoie. La France est une mère indigne qui a abandonné ses filles sur le trottoir sans même leur faire un signe. J'ai donné la matée, la faire tâter le terrain, la faire téter les seins d'une pute pourrie gâtée. Car ceux-ci ne sont pas toujours source de consistance. Je m'adresse à mes frères qui vivent sous assistance. Perfusé par RMI, amateur de substances prohibées. Faut pas évoluer le PIB. Mes frères musulmans sont haïs comme mes frères juifs à l'époque du Reich, de l'Allemagne des nazis. Être français c'est devenu une question de couleur. Tu comprends pourquoi ma haine prend sa source dans la douleur. On porte les stigmas d'une décolonisation mal digérée. Rejetée comme des excréments, l'État digéré. Une situation pense de l'insupportable. Et bois, et t'étonne pas de perdre ta vie pour un portable. La France est une gare, n'oublie pas de la baisser jusqu'à l'épuiser. Comme une salope, faut la traiter, maître.
Bon, on va peut-être pas 3 minutes, ça me paraît. Là, je pense que je serais mort dans 3 minutes si je continue. Mort de colère, mort de rage, de haine, de tout ce qu'on veut. Donc on va arrêter, hein. Il c'est pas tout faux ce qu'il dit. Quand on lui rejette comme des excréments, il y a un fond de vérité finalement. C'est assez excrémentiel quand même, ces gens-là, et ce qu'ils chantent. Alors, vous avez les paroles, parce que là, j'ai pas tout compris, hein.
On a extrait quelques
paroles. On entend comme la France est une gare, c'est une salope, il faut la baiser.
La France est une gare, n'oublie pas de la baiser jusqu'à l'épuiser. Comme une salope, faut la traiter.
Ça, pour ça, pour épuiser, ça va, c'est en bonne voie.
Voilà, donc, la France est une mère indigne qui a abandonné ses filles sur le trottoir, sans même leur faire un signe. Il y a autre chose. La France est une de ces putes de mère qui t'a enfanté et qui ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir avorté. On siffle la Marseillaise au Stade de France. Oh, mais moi je pisse sur Napoléon et le général de Gaulle. Voilà, donc, et puis ça continue comme ça pendant 3 minutes à peu près en boucle.
Et votre corporation est particulièrement visée ?
Bien, en fait, à un moment, l'auteur en question dit qu'il est passé du banc de l'école au banc des accusés pour avoir traité un sale flic de fils de pute. Hein, bon, c'est de l'outrage caractérisé, une nouvelle fois. Non, encore une fois, pour revenir sur le fond de l'affaire, c'est au-delà de Monsieur R. Richard Macchiella, c'est véritablement une scène hardcore de rap français qui est alimentée par nos élites mondialisées, puisqu'en fait, on a en permanence l'obligation de faire le repentir actif sur 2000 ans de l'histoire occidentale. Donc ces gens-là, on leur sert tous les éléments contre l'Europe et l'Occident. On leur sert rapidement comme un prêt-à-penser. Ils font un amalgame extrêmement sévère et rapide, et il n'y a absolument aucune sanction, puisque ce délit étant par voie de presse, malheureusement, c'est encore une loi du 19e siècle qui s'applique, alors que l'ensemble des données socio-économiques et politiques ont changé aujourd'hui. Et que ce genre de texte qui porte atteinte tout particulièrement à l'État devrait être sanctionné en fait sans délai de prescription, sans revenir sur le fond, parce que effectivement la loi sur l'expression par voie de presse et prévoyant le délit par voie de presse permettait d'assurer une liberté de parole, justement par voie de presse, et une liberté d'écrit et de penser. Malheureusement, aujourd'hui, avec l'ensemble des moyens numériques et médiatiques qu'on a, ce genre de délit devient permanent, puisqu'en fait, on s'est aperçu après avoir surfé sur le net, hein, ne serait-ce que par Google, hein, vous avez énormément de liens. Et chaque personne reprend ce clip permettant en quelque sorte une réédition. Malheureusement, la réédition n'est pas sanctionnée par la loi de.
Mais enfin, bon, c'est pas le débat. Mais moi, je suis pas partisan d'actionner la justice de cette façon-là. Bon, pour des raisons évidentes d'ailleurs, parce que moi, j'aurais revendiqué la liberté d'écrire.
Tout à fait, oui.
Ce que j'ai envie d'écrire et de dire ce que j'ai envie de dire, mais je trouve que n'importe qui a le droit d'écrire, de dire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Mais sous réserve que les victimes aient le droit, alors, sur le plan civil, de se défendre. Sur le plan pénal, c'est autre chose, parce que le plan pénal, c'est toujours le pouvoir qui décide de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut pas dire. Et il est pas fou, ce mec-là, parce que j'entends qu'à un moment, il fait naturellement allusion à mes frères juifs.
Exactement.
À mes frères juifs,
victimes
du Reich, etc.
Au-delà de
Donc
ça,
là, de ce côté-là, il est couvert, il n'y a pas de problème, il risque rien. Les Français catholiques, on peut vraiment leur cracher dessus autant qu'on veut. Mais les juifs, faut quand même être prudent parce que là, ils sont rompus à, ils ont leurs organismes de, leurs associations de défense, leurs organes de combat et tout. Et là, le courageux phénomène, là, le Ouistiti, il se dit que c'est peut-être pas le moment de faire trop le malin.
Tout à fait. Sur l'action, c'est qu'en fait, nous sommes les seuls, après je laisserai la parole à Michel.
Voilà, c'est ça, Jérémy.
Nous sommes les seuls à avoir déposé plainte, tout simplement parce que déjà notre statut de syndic, de police nous permet d'avoir un intérêt à agir. Donc nous sommes les seuls à avoir véritablement porté plainte contre Monsieur R, et tout le remue-ménage parlementaire n'a visé qu'à faire rédiger une pétition simplement la saisine du garde des Sceaux dans une éventuelle recherche d'une infraction. Enfin, sachant comment ça se passe habituellement, bien évidemment, pour l'instant, il n'y a pas de suite.
Assez incroyable, c'est que Sarkozy qui veut nettoyer au Karcher, là, il ne pense pas à nettoyer
le
showbiz.
Sur Sarkozy, encore une fois, lorsqu'il y avait eu l'affaire de Sniper, justement, il avait eu un discours totalement enflammé à l'Assemblée, disant que la démocratie, c'est le droit de dire ce que l'on pense, mais pas de tout dire, notamment les propos injurieux et diffamatoires. Il se portait garant de la poursuite des individus proférant ce genre de menaces, de diffamations ou d'injures. A priori, là, je sais pas, soit il était en vacances, soit il a trop de mandats pour gérer le ministère. En attendant, nous n'avons aucun suivi. Oui.
Les autres syndicats, qu'est-ce que...
Il n'y a eu aucune reprise.
Et comment ça se fait, ça? Parce qu'ils sont tout courants.
Je vous retourne la question.
Ça a été médiatisé, on en a parlé beaucoup.
Il n'y a eu aucune autre suite.
Les mulets, comment vous appelez ça, les policiers en uniforme, comment ils agissent, là? Parce qu'ils sont en première ligne dans ces histoires-là.
Oui, non,
c'est eux qui vont se faire casser la gueule dans la rue.
De toute façon, aujourd'hui, je pense qu'il est évident que la démarche Action Police CFTC, elle s'inscrit dans un besoin, une nécessité vitale aujourd'hui pour la police nationale, et on le voit bien de par le développement aujourd'hui qu'on connaît, puisqu'il y a véritablement une carence en matière d'action syndicale. Aujourd'hui, que ça soit Alliance Police Nationale qui s'est mis à la botte de Sarkozy, c'est Villepin qui arrive au ministère, c'est Villepin. Bon, aujourd'hui, on voit qu'il y a plus le syndicalisme policier n'est plus là pour défendre les policiers et l'institution, il est plus là que pour faire du clientélisme, en fin de compte. Nous, aujourd'hui, notre démarche est complètement différente, et le clip, au-delà de l'outrage qui est caractérisé, il y a des choses extrêmement graves. Il y a véritablement un message qui est lancé, appel à l'islam radical.
Excusez-moi, le clip, je vous redonne la parole tout de suite, il faut préciser que ce disque... et comme on le fait maintenant beaucoup, accompagné ou doublé d'un clip, c'est-à-dire d'un petit film, sur lequel on voit qui est mis en scène avec des actions, avec des personnages qui sont les chanteurs mis dans certaines situations. Et alors là, qu'est-ce qu'on voit donc sur
Alors absolument. Donc déjà, ce clip-là n'a pas été distribué par la FNAC, n'est pas sorti. Hein, c'est Sony qui produit, ne l'a pas sorti. Il est simplement consultable soit sur le site de Richard Makela ou sur le nôtre. Hein, les auditeurs pourront aller sur le www. actionpolice.com, ils pourront consulter le clip.
www.actionpolice en un seul mot
.com, voilà, hein, et donc ils pourront consulter le clip, ils auront le son associé à l'image. Donc eh ben, nous on a constaté qu'il y a plusieurs appels du pied qui sont lancés à l'islam radical. Entre autres, donc j'ai eu l'occasion de faire un direct, j'ai été invité par Michel Field sur le plateau d'LCI face à Olivier Besancenot, qui soutient bien évidemment l'action de Richard Makela. Donc j'ai été opposé à ces deux personnes et j'ai pu présenter une image qui est assez choquante. Au moment où Richard Makela parle du prophète, on a en image de fond Ayman al-Zawahiri, numéro 2 d'Al-Qaïda, qui apparaît. On a d'autres, là actuellement on est en train de travailler avec Gilbert Collard sur le dossier, mais il y a d'autres appels du pied qui semblent assez évidents pour rassembler les jeunes vers l'islam radical. Donc on pense aujourd'hui que particulièrement cette chanson et ce clip sont un appel du pied aux jeunes de cité pour dire aujourd'hui on rentre dans le cadre d'un combat, un combat contre la France, contre l'Europe, puisqu'il ne s'en prend pas simplement à la France, mais il dit aussi que l'Europe est une garce. Donc on pense aujourd'hui, nous, qu'on est effectivement plein choc de civilisation, et il veut, Richard Makela veut, et je pense que c'est évident, c'est limpide quand on regarde son clip, il veut en fait provoquer la guerre entre l'Occident, qui considère certainement comme chrétien, et l'islam, l'islam radical, l'islam violent, l'islam représenté par des organisations terroristes comme Al-Qaïda, d'autres organisations comme la Jamalia Islamia ou d'autres organisations international. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a véritablement un appel fort qui est lancé au travers de ce clip aux jeunes de cité pour qu'ils combattent l'Europe, la France, au travers du terrorisme. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Donc on va attaquer bien évidemment Richard Makela. Olivier Besancenot soutient l'action de Richard Makela. On n'en est pas surpris, connaissant Olivier Besancenot, qui mange actuellement tous les râteliers pour essayer de gratter un peu d'électorat. Il est prêt un peu à tout. Et on exploitera aussi la cassette d'LCI, puisque quand il a été moi quand j'ai interpellé Richard Makela sur ses appels du pied au terrorisme, ils ont été en incapacité tous les deux de me fournir une réponse cohérente, et Olivier Besancenot me dit que je suis malheureusement tombé sur le mauvais morceau, mais que dans l'ensemble il semblerait que dans d'autres clips ou dans d'autres morceaux Richard Makela se dénoncerait l'islam. Moi j'ai écouté l'album, j'ai pas entendu de dédouanement quelconque, et en plus il a bâti entre guillemets sa célébrité autour de ce clip. Donc aujourd'hui, nous, on va intervenir. On a été repris par l'ensemble de la presse écrite. On a été repris aussi dans pas mal de télé. Ce week-end, j'étais en charge d'animer l'atelier des universités du mouvement pour la France de Philippe de Villiers. On a longuement parlé de cette affaire-là. Les militants étaient extrêmement inquiets de cette montée de l'islam radical et des propos extrêmement graves qui sont proférés. Donc aujourd'hui, on va mener une action. On espère qu'on soit suivi par la justice. À défaut que la justice nous suive, puisque bon, on entend malheureusement plus grand-chose. On espère au moins pouvoir dénoncer ça, et que les gens sachent qu'aujourd'hui il y a des groupes qui n'hésitent pas à prôner la haine et qui font des appels du pied au terrorisme, qui font des appels du pied aux jeunes des cités en France, hein, dans nos 600 voire 1000 cités interdites, pour commettre des actes terroristes sur le territoire national, et ça c'est pas acceptable.
Et justement, pour repréciser encore le terrain dans lequel s'inscrit ce genre d'œuvre artistique, puisqu'en fait c'est une œuvre artistique. Ça reste une œuvre artistique. Récemment,
Dominique, voilà. Je veux dire que personnellement, j'aurais quand même des scrupules.
Tout à fait. Vraiment, ils sont.
Mais évidemment.
Et donc, récemment, il y a un énième rapport de la Direction centrale des renseignements généraux qui met bien en évidence, en fait, les nouveaux modes de financement de l'islam radical. À l'époque, l'islam radical se finançait par le marché de la viande halal et les boucheries, et les kebabs et autres. Avec beaucoup vu les contraintes en fait d'hygiène et de sécurité, les procédures suivaient, les magasins fermaient, donc c'était extrêmement complexe pour eux de continuer à travailler et de se financer sur ce terrain là et bien ils ont trouvé un terrain tout simple pour se refinancer, et ça apparaît très clairement dans ce rapport de la Direction centrale des renseignements généraux, c'est que maintenant ils se refinancent sur la commercialisation des vêtements urbains destinés aux rappeurs. Donc effectivement, pour avoir une autorisation consommation, il suffit un fonds de commerce et puis des vêtements, ma foi, il n'y a pas d'hygiène et sécurité. Tout est réglo. Par contre, c'est eux qui les fournissent. Alors,
Goffman me disait l'autre jour que, à propos des vêtements, parce que ça peut, je parle de ça parce que votre propos risque de pas être compris. C'est-à-dire que ça peut paraître tout à fait marginal. Il faut savoir que d'après une enquête qui a été faite par les marchands de fripes en France,
oui.
La moyenne du budget par français de fripes, c'est 400 euros par an. C'est hallucinant quand on y pense. C'est-à-dire, on a 60 millions d'habitants, depuis le bébé jusqu'au vieillard. Hein. Oui. Donc 60 millions d'habitants, 60 millions de fois 400 euros. C'est gigantesque. C'est un marché énorme.
Oui,
donc en supposant que 1% de ce marché concerne la SAP rappeur,
voilà,
et que 1% de cet argent
la
soit consacré à l'islam radical,
ça fait 240 millions d'euros.
Voilà. Je vous laisse faire. Moi, j'ai abandonné toute espérance de ce côté-là.
Il faut quand même savoir aujourd'hui qu'on entend, souvent les politiciens de gauche et de droite, même Nicolas Sarkozy ou d'autres, s'exprimer et dire que s'il y a des problèmes dans les cités, c'est aussi pour un problème de pouvoir d'achat et qu'ils n'ont pas d'argent. Mais aujourd'hui, dans les cités, nous, en tant que policiers, on est bien placés pour le savoir. Il y a énormément d'argent. Le lobby cité aujourd'hui en France est véritablement une cible marketing forte. Il y a un véritable pouvoir d'achat. Donc, les richesses sont générées par l'ensemble des aides sociales que peuvent percevoir les habitants des cités. Il est très largement enrichi par les différents trafics, entre autres le trafic de cannabis qui génère véritablement des sommes folles.
Et maintenant, le tabac. Est-ce que vous avez des informations sur la contrebande du tabac? Parce que dans le quartier où je suis, moi, on les voit, on
oui,
voit
le 10e,
ces gens
10e, vendre, de toute façon, c'est de toute façon
en pleine rue, enfin sous le regard d'ailleurs de vos collègues qui dressent des contraventions aux gens qui portent pas la ceinture, mais ils se retournent pas pour voir.
Mais ça, c'est encore une aberration du système, avec une réorientation des missions sur le racket fiscal et l'abandon définitif ou quasi définitif du traitement des délits pénaux qui sont juridiquement non rentables.
Ouais, c'est ça.
Donc on parle de non rentabilité tout simplement parce que la politique pénale générale est défini en partenariat avec la pénitentiaire, la police et la justice. Lorsque le directeur de la pénitentiaire tire le signal d'alarme et dit j'ai plus de place, eh bien forcément le taux de classement sans suite, eh bien augmente. C'est tout simple à comprendre, c'est malheureux à comprendre, mais c'est la réalité des faits.
De toute façon, aujourd'hui on s'attaque, il est simple de le comprendre, on s'attaque à une population qui peut payer immédiatement, qui est solvable en très peu de temps, les automobilistes. L'automobiliste est un contribuable solvable dont il est très facile de lui tirer l'argent de la poche. Beaucoup plus difficile quand on a affaire à un jeune de cité qui n'a pas le permis de conduire, qui est fiché, qui a des antécédents STIC, qui est plus ou moins considéré sans ressources, même s'il roule en BMW dernier cri neuf, il est considéré sans ressources. Les maires font énormément de pression aussi pour leur faire sauter les contraventions, dire oui, ils peuvent pas payer, etc. Il faut pas les enfoncer davantage. Aujourd'hui, quand vous allez en perquisition, il faut pas se le cacher. Dans les appartements des cités interdites, Tarteret, les 4000, etc. Vous rentrez dans les appartements, il y a tout le dernier cri, l'équipement dernier cri en matière d'IFI. Il y a de l'argent partout. Vous soulevez les matelas et il y a véritablement de l'argent dans les cités. Donc dire aujourd'hui qu'il y a des problèmes et que le phénomène de cité, les violences urbaines sont liées à un manque d'argent et un manque de moyens qui leur seraient fournis est complètement faux. C'est véritablement lié à une volonté directe d'une certaine partie des populations de cité aujourd'hui de absolument pas s'intégrer à l'État français. Ils sont pas là pour s'intégrer. Ils se retrouvent au travers de l'islam radical. Alors comment en plus effectivement leur donne les moyens de ne pas travailler, de pouvoir rester sans rien faire avec des subsides en matière d'aide sociale. On arrive à une situation qui est complètement absurde où les gens peuvent rester dans leur cité sans travailler, ils gagnent de l'argent au travers des aides sociales, au travers des trafics. La police n'y rentre plus parce que quand la police rentre, bien évidemment, il y a des interpellations derrière interpellations, représailles, c'est-à-dire des voitures qui brûlent. Nicolas Sarkozy a certainement pas envie en ce moment de voir des voitures qui brûlent dans les cités. Il est en pleine préparation de sa présidentielle, donc il faut, on a mis le couvercle sur la cocotte minute, on le serre, la soupape elle tourne à grande vitesse, on attend que ça explose ou que ça explose pas, on essaye de faire en sorte que ça explose pas, et puis voilà, on laisse les choses se faire. Donc aujourd'hui, cette situation n'est plus acceptable. et notre syndicat Action Police FTC, là, bah, pour effectivement dénoncer ces faits, proposer aussi des solutions sur le plan politique en matière de sécurité, et aussi travailler sur le social pour nos collègues. Les policiers, ils en ont ras le bol, hein, aujourd'hui. Il faut pas se le cacher. Il y a une démotivation des collègues.
Est-ce qu'ils ont le droit de grève maintenant, les policiers?
Non, toujours pas. Absolument pas. Non, il y a effectivement le droit de manifester, mais bon, toujours avec un système, où les collègues ont toujours peur, parce qu'ils savent que quand on va dans une manifestation, ils peuvent être repérés. Bon, et puis pour la carrière, suite de la carrière, c'est pas facile.
C'est avec des RG qui se filment eux-mêmes quand ils sont pas là.
Je vais vous donner un petit aspect du social chez nous, hein, parce qu'il y a une nouvelle direction des affaires sociales. Cette direction des affaires sociales a commandé auprès d'une boîte américaine, hein, d'audit extérieur, a commandé justement une enquête pour mettre en évidence les différents problèmes sociaux auxquels étaient confrontés les fonctionnaires de police. Eh bien, en gros, hein, je passe sur le principal, mais il y a quelque chose de très amusant, c'est qu'ils ont mis en évidence qu'il y avait très certainement un déficit en termes de places de crèche ou de mode de garde alternatif, hein, système maternel, etc., dû justement au côté atypique du travail des fonctionnaires de police qui travaillent du lundi au dimanche sans jour de repos particulier. Et ils se sont aperçus aussi que les plus touchés, c'était les fonctionnaires de police féminines qui, en tant que femmes, ont des enfants. Voilà, une femme a des enfants et a des problèmes pour les garder. Voilà, et il faut un audit extérieur pour mettre en évidence qu'une femme peut avoir des enfants et avoir des problèmes pour les garder.
Je veux dire que quand je vois des fliquettes ou des... Tout à l'heure, un ami me racontait qu'il avait vu quand même ce spectacle assez hallucinant. Alors là, on n'est pas fliquettes, mais d'une femme capitaine en uniforme qui poussait un landau devant l'école militaire, suivie par son mari qui trottinait derrière elle en civil et en portant le bébé dans un sac ventral. Alors effectivement, ces gens-là, si on leur raconte l'histoire du colonel Moscardo, vous connaissez, Dominique Tassot, l'histoire du colonel Moscardo, dont le fils était prisonnier des Rouges à l'Alcazar.
Ah oui, oui, bien sûr.
Et le fils téléphone en disant, papa, ils disent que si tu ne... Enfin, plutôt, il était prisonnier des Rouges et Moscardo était dans l'Alcazar. Et papa, ils disent que si tu ne te rends pas, ils me tueront. Et le père lui répond, mon fils, recommande ton âme à Dieu. Ça, c'est des militaires. Ça, c'est des soldats, pardon. C'est pas des militaires. Alors, évidemment, quand après, on voit des femmes capitaines qui se baladent en poussant un landau avec derrière le julot qui trimballe le môme sur son ventre dans un sac, on se demande si un jour, les gens du ministère amer ou les hommes de Monsieur R décident de faire quelque chose, si on peut vraiment compter sur ces militaires-là pour nous défendre.
Mais la mère des Maccabées n'a pas agi autrement.
Oui, ben, bien sûr, absolument. Mais là, je crois que celle-là, c'est râpé. Hein,
non, mais bon, il faut savoir que de toute façon, aujourd'hui, la police nationale, si on avait un ministre de l'Intérieur qui avait réellement envie de régler les problèmes d'insécurité, on est en capacité quand même de le faire. On a des personnels qui sont chargés de la sécurité, qui le sont formés, qui ont envie, pour la plupart. Bon, aujourd'hui, ils ont de moins en moins envie, parce que bon, quand ils voient cette ambiance générale. Pour revenir bon sur le clip de Monsieur R, au-delà même de l'outrage qui n'est absolument pas suivi, puis que tout le monde trouve, maintenant c'est rentré dans les mœurs, un outrage c'est plus grand chose, mais il y a véritablement au travers de ça la volonté de déstabiliser l'Europe et la France d'une certaine partie de la population qui se trouve aujourd'hui sur le territoire, une volonté qui est affichée quand on contrôle des jeunes de cité qui nous disent de toute façon la civilisation européenne disparaîtra comme d'autres grandes civilisations de notre histoire, de l'histoire humaine ont disparu.
Je regardais il y a quelques jours une émission sur les centres de détention, comment ça s'appelle, pas les centres de détention, les
centres fermés de détention,
qui sont très ouverts d'ailleurs.
Ouais. Alors là, franchement, je peux que répéter ce que je dis toujours. Ces gens-là sont des dingues, quoi. Il n'y a pas de problème. Je parle des politiques qui gouvernent ce pays, enfin qui gouvernent, qui saignent ce pays à blanc. Oui, je dis ce pays. Je sais qu'il ne faut pas dire ce pays, mais je le dis quand même. Qui saignent la France à blanc. On nous dit d'une part que on n'a pas les moyens d'embaucher des instituteurs. Il manque 3000 instituteurs dans le privé. Enfin, professeurs instituteurs dans le privé. Dans le privé, dans l'enseignement libre sous contrat. Et alors, on n'a pas les moyens de les embaucher et tout. Et je regardais un reportage sur un de ces centres-là. Il y avait quatre délinquants de 14 ans, hein, qui étaient enfermés là-dedans. 28 personnes pour les encadrer et les servir. 28 personnes.
Et sans aucun résultat.
Ah ben, le résultat, c'est qu'ils ont tout saccagé.
Sans aucun résultat.
Ils ont tout saccagé, brûlé les bagnoles, détruit les fenêtres, les portes et tout. Et ils ont foutu le camp en volant une voiture. Après avoir cassé la gueule des deux personnels d'encadrement qui étaient là. Les 26 autres, on ne sait pas où ils étaient passés. Ils devaient être en arrêt de travail, en RTT, en vacances, ou en centre de formation.
Il ne faut pas de toute façon aujourd'hui s'étonner de ça, puisque c'est réellement un concept de notre vision de la sécurité qui a été mise en place par la gauche et la droite, qui est toujours axé autour de la prévention et du pognon. On ouvre les pompes à fric en permanence et on n'est pas capable aujourd'hui d'appliquer un système de tolérance zéro.
L'idée selon laquelle l'insécurité est entretenue volontairement comme moyen d'assurer la tranquillité des politiques. Vous ne croyez pas à cette hypothèse? Parce que quand vous avez l'insécurité, quand les gens sortent plus le soir, bon, ils restent chez eux, ils font pas de manif. Le moindre manif se transforme en émeute. Donc ils ont peur de se faire dépouiller, comme ça s'est passé avec les lycéens. Et finalement, objectivement, la racaille, c'est un système qui est objectivement au service de la mafia politique, puisqu'ils assurent la tranquillité des mafieux politiques.
Si toutefois effectivement l'idéologie de nos gouvernants est celle-ci, ils le payeront de toute façon tôt ou tard très cher, puisque les Français, je pense aujourd'hui, en ont ras-le-bol, les politiciens en ont ras-le-bol, ils attendent véritablement un vrai changement, pas un ministre qui va dans une cité qui dit qu'il va tout nettoyer, qui nettoie rien du tout à part donner de l'argent. Ils attendent véritablement un changement. Donc si effectivement c'est leurs objectifs, ils iront droit dans le mur, ils seront sanctionnés tôt ou tard. Et c'est tout aussi tout l'intérêt aujourd'hui d'Action Police CFTC, c'est de pouvoir proposer aux 130 000 fonctionnaires de police, tout corps confondu, une véritable alternative aux politiques qui sont mises en place par les syndicats, majoritaires, minoritaires, les confédérations, les indépendants. Aujourd'hui, on est les seuls à parler réellement des problèmes, à dénoncer une certaine vision, une certaine façon de faire la sécurité en France. On le dit, on parle, on s'exprime, on est reçu partout. J'étais à LCI il y a quelques jours, on vient chez vous, on passe dans la presse, même dans toutes les presses.
On finira peut-être par être entendu.
Et j'espère aussi que les Français soutiendront l'action des policiers en montrant aussi leur mécontentement et en soutenant l'action qu'on peut mener en matière de sécurité.
Mais c'est tout ce que je souhaite. Je vous remercie d'être venu. Je vais vous demander de donner l'adresse à laquelle on peut entrer en contact avec vous. Et puis, je voudrais dire que, en ce qui concerne ce disque de M. R, qui pisse sur De Gaulle et Napoléon, moi, je me demande ce qu'attendent toutes les associations gaullistes, tous les vieux résistants gaullistes qui passent leur temps à se pavaner dans des manifestations avec toutes leurs décorations pendantes pour expliquer comment ils ont viré les Allemands à coups de pompe dans le cul en 44. Je me demande ce qu'ils attendent pour faire un acte de résistance là, qui consiste même pas à prendre un fusil, mais qui consiste simplement à s'associer à une plainte comme la vôtre. Parce qu'après tout, quand on insulte De Gaulle de cette manière, même moi qui le déteste, il y a des choses que j'aurais pas dites. Et puis je me souviens qu'il y a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années, Jean-Yann et Jacques Martin avaient fait un sketch à la télévision où on voyait Napoléon qui participait au Tour de France. Et ça avait provoqué un scandale gigantesque à la suite duquel toutes les associations bonapartistes et napoléonistes de France s'étaient constituées, partie civile, avaient porté plainte et l'émission avait été supprimée. Alors je lance cette idée aux bonapartistes napoléonistes qui sont encore très nombreux en France. Qu'est-ce que vous attendez pour porter plainte contre ce voyou de bas étage, cette racaille qui pisse sur Napoléon? Parce qu'il n'y a pas que les flics qui sont concernés par cette histoire. Il n'y a pas que la France avec deux S comme la Waffen-SS. Il n'y a pas que les gens qui se font insulter, traiter de pute et de salaud et tout. Il y a votre idole Napoléon et puis pour les autres, votre idole De Gaulle. Alors si vous n'êtes même pas capable de défendre la mémoire de vos idoles, vous méritez même plus le titre de Français.
Oui, tout à fait. Puis on pourrait même faire un appel aux associations féministes, puisque là, on n'a pas pu associer l'image au son. Mais il y a deux femmes qui sont nues et qui s'essuient les organes génitaux avec le drapeau national. Et il y a véritablement une haine qui est véhiculée au travers des paroles de, de la chanson de Richard Makela contre les femmes en général, puisqu'il considère la femme comme un objet qu'il faut baiser
jusqu'à l'épuiser,
et voilà. Qu'il faut comme une salope, elle doit être traitée comme une salope. Donc aujourd'hui, je pense que même les associations féministes devraient relayer l'action.
Merci. Alors, votre adresse?
Oui, alors c'est le site www.actionpolice.com. Tout attaché.com.
Ça, c'est l'adresse internet.
Voilà.
Répétez, s'il vous plaît.
Alors, www.actionpolice.com. www.actionpolice.com. Et l'adresse postale, c'est le 4 rue Robert de Flair. Robert, plus loin D-E, plus loin Flair, F-L-E-R-S, 75 015 Paris.
Il y a un téléphone où on peut joindre?
Oui, on va laisser un numéro de mobile, hein, où on est toujours joignable. C'est le 06 65 29 90 61. 06 65 29 90 61. Voilà.
Et si
voilà.
Vous retombez sur... L'intitulé, c'est le syndicat...
Action Police CFTC. Voilà.
Action une fois qu'il y a des fonctionnaires qui veulent de l'action, alors...
Voilà, exactement.
Vous devriez vous en souvenir. Merci, monsieur.
En tout cas, merci beaucoup de votre invitation.
Et puis à bientôt, vous viendrez nous donner des informations sur la suite des événements.
Avec sans plaisir. Problème. Merci encore.
Docteur Dor, si vous voulez prendre la place que Monsieur Carme a chauffée pour vous, on vous donne la parole dans quelques instants, mais je vais d'abord donner la parole à Dominique Tasso, qui est René Prival, qui, c'est ça, c'est René. Non, il n'y a rien à faire. Alors écoutez, une fois pour toutes, vous êtes gentil, chez moi vous appelez René, parce que je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est un mystère insondable. Vous n'avez pas un bon médecin
manquer, là,
un neuropsychiatre.
On a le docteur Planteur.
Oui, voilà. Je vais lui demander de me faire un petit...
Ça sera un cas à lui soumettre. Ouais,
je vais lui demander de me faire un petit diagnostic et de me trouver un traitement, parce que ce refus du Guy, c'est quand même très, très étrange. C'est ma haine des druides, et pourtant, je les déteste pas.
Vous auriez fait un mauvais druide.
Un mauvais druide, voilà. Donc, Guy Prival, voilà. Guy Prival et Dominique Tasso. Vous êtes, je le rappelle, Dominique Tasso, président, et vous êtes secrétaire général.
Secrétaire,
tout court, même pas général.
Tout court.
Même pas colonel. Je le fais à chaque fois. Centre d'études et de prospectives sur la science, le CEP, et vous organisez du 15 au 16 octobre 2005 un colloque à Angers, au Bon Pasteur, rue Marie-Euphrasie-Pelletier, 49045, Angers. Le titre, c'est « La finalité dans les sciences et dans l'histoire ». Alors, on donnera le... on peut d'ailleurs tout de suite donner quelques invités, puisqu'il y a Benjamin Guillemin, que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent très bien, Christian Bizoire, le docteur François Plantec, les auditeurs connaissent aussi, Jean-Pierre Brancourt, Patrice Raymond, le père Alexandre Perrault, Benoît Gandillot, les âges des patriarches bibliques ont-ils un sens? Ça m'intéresse beaucoup, ça. Dominique Tasso, la religiosité scientifique moderne de Haeckel à Teilhard de Chardin, c'est de ça qu'on va parler ce soir. Guy Berthaud, si les hommes se taisent, les pierres crieront.
Alors là, il faut justement ajouter que viendra un géologue russe, vous qui aimez évidemment ce pays, et moi aussi d'ailleurs. Il se trouve que donc Guy Berthaud a travaillé depuis longtemps de façon expérimentale sur la sédimentation, c'est-à-dire qu'il a expérimenté sur un phénomène dont tous les géologues se servent depuis plus de deux siècles pour dater les roches, mais sans avoir eu l'idée de vérifier expérimentalement ce qu'ils avaient affirmé sur le temps nécessaire pour avoir cette sédimentation des roches sédimentaires qui représentent la majorité des roches. Alors Guy Berthaud a expérimenté, il a publié, et aujourd'hui on a des géologues qui, dans leur pratique courante, appliquent les idées de Guy Berthaud. Alors ça, c'est très important parce que c'est tout le cadre chronologique auquel on s'est habitué, qui aurait mis en cause, et Lalomov est un géologue dont le père était lui-même déjà géologue, donc c'est quelqu'un qui est tout à fait à l'aise dans le milieu scientifique russe, qui sur le plan des préjugés intellectuels est beaucoup plus ouvert, ça c'est un aspect donc que je lui ai demandé d'aborder dans sa conférence, comment justement le fonctionne la science en Russie aujourd'hui, parce qu'on s'est habitué à une science marxiste-léniniste où tout il fallait toujours citer Marx dans un traité sur la sphère des abeilles, alors qu'aujourd'hui, on a justement fait sauter ce couvercle et on constate une liberté de pensée et de parole très importante chez les scientifiques russes et qui va justement faciliter de remettre en cause certaines idées établies. Là, je fais une allusion au terme de Maurice Allais, prix Nobel d'économie, non, que vous connaissez. qui vient de faire, ça circule actuellement sur Internet, une déclaration assez importante sur l'Europe, sur la Constitution européenne, sur l'économie européenne. C'est cette idée qu'exprime Maurice Allais maintenant qui m'a amené à demander à Benjamin Guillemin de parler.
De parler de la subsidiarité.
Il s'agit de parler de la finalité, mais justement, cette question de subsidiarité, pas du tout un point de philosophie. C'est un point de philosophie, mais en réalité, mais ça a des conséquences absolument vitales dans le fonctionnement de l'Europe. Et évidemment, Benjamin Guillemin était tout à fait apte à en parler.
Et le dernier orateur, c'est le professeur Benoît Naïs qui présentera l'œuvre de Joseph Malègue, Une littérature, méditation des plus hauts mystères. Alors, j'ai dit qu'on allait parler de votre intervention, Dominique Tassot, la religiosité scientifique moderne de Haeckel à Teilhard de Chardin, parce que c'est le centenaire de la mort de Teilhard de Chardin. Vous avez publié récemment un texte sur Teilhard de Chardin qui n'est pas piqué des hannetons.
Qui était l'éditorial du dernier numéro du CEP, dans lequel, évidemment, suite à ce centenaire, centenaire qui, finalement, a été un petit peu escamoté par la mort de Jean-Paul II. Et ça m'a beaucoup amusé, parce que on avait prévu à l'UNESCO une grande cérémonie avec des discours simultanés à New York et à Paris, retransmission sur grand écran. Il fallait payer 20 €, d'ailleurs, pour aller à l'UNESCO assister à ça. Et finalement, c'est tombé juste la veille. De l'enterrement, et du coup, bon, ça a payé flop, et de toute façon, les médias ont très peu répercuté cette mort de Teilhard de Chardin, et au fond, je crois que c'est bien de laisser Teilhard un petit peu mourir en paix, parce que, d'une certaine façon, il a fait son temps. Mais en même temps, un retour sur l'œuvre de Teilhard de Chardin est extrêmement intéressant aujourd'hui, parce que, finalement, il a vu très loin. Le bonhomme est intéressant chez Teilhard. Bon, sa pensée est un peu
rigolo, en tout
est inconsistante, mais je veux dire, il a voyagé, il a donné une image de ce que pouvait être un jésuite savant, finalement assez attrayante, et d'une certaine façon, pour moi, c'est quelqu'un qui a contribué à réconcilier certains milieux scientifiques avec l'Église ou avec la religion. Parce qu'évidemment, il était. Alors évidemment, il l'a fait au prix de la vérité.
Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est paradoxal parce que effectivement,
c'est facile si on hurle avec les loups d'être bien vu des loups. Donc ça, évidemment, ça on peut pas lui admettre qu'un jésuite l'ait fait. Enfin, on doit constater qu'il y a des, je dirais, comme des effets secondaires qui eux ont pu être positifs. Mais ce qui est tout à fait central dans la pensée de Teilhard et que j'ai découvert à cette occasion, et ça c'est que je veux faire partager, c'est que Teilhard était tellement convaincu de l'évolution que pour lui, l'homme lui-même continuait à évoluer et que dans un avenir peut-être lointain mais inévitable, nous allions être même physiquement très différents de ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est là où on a une compréhension de ce qu'est le modernisme peut-être très intéressante. C'est parce que la question que se posait Teilhard, c'était comment faire survivre d'une certaine façon la religion chrétienne pour le supra-humain qui va venir. Autrement dit, nous sommes, nous, vis-à-vis de ce supra-humain, dans la position du singe vis-à-vis de l'homme. Parce que Teilhard était complètement darwinien. Alors, lui, il est... on a critiqué en disant, mais Teilhard ignore complètement la biologie, il passe directement du caillou à l'homme, dans sa théorie d'évolution. Il n'y a aucune compréhension du mécanisme supposés de l'évolution qui sont des mécanismes biologiques. Donc Teilhard est passé tout à fait à côté, mais il était là vraiment convaincu de cette évolution, et donc il se voyait comme une espèce d'avant-garde ouvrant des chemins pour permettre à la religion chrétienne de survivre dans la tête du supra-humain qui va venir. Alors, évidemment, si on accepte cette vision des choses, évidemment, il n'y a plus de dogme, il n'y a plus de rien n'est stable, tout doit évoluer. Donc, sa religion est vraiment une religion de l'évolution. C'est-à-dire que le concept dominant, c'est l'évolution, et puis il faut adapter tout ce qui est l'attitude religieuse de l'homme.
En même temps, il y a une incohérence dans son système, enfin une incohérence fondamentale, c'est quand il parle de noosphère. Si la noosphère préexiste à l'accession de l'homme à son état de suprahumain, ça veut dire que c'est un peu comme s'il y avait un plan au sens du blueprint, le plan de construction du surhomme, qui a été préétabli et vers lequel tendrait l'homme à partir du sein.
Ça tient pas debout. C'est exactement la même contradiction que chez les marxistes. Et d'ailleurs, il avait de très bons amis chez les communistes parce qu'il y avait une proximité. Parce que d'une certaine façon, tout ce qui réussit a le soutien de Teilhard. Parce que évidemment, forcément, c'est la survie du plus apte.
Oui, c'est ça. C'est ouais,
Et on a quand même cette phrase, moi, qui me paraît extraordinaire. Donc, peu avant la guerre, il écrit au professeur en lui disant, mais où y a-t-il aujourd'hui le plus d'espoir pour l'humanité ? À Moscou ou à Berlin ?
Ben oui, bien sûr. C'est une bonne question.
On voyait deux réussites flagrantes de l'humanité marchant, marchant ou pas, donc construisant, bâtissant, etc. Et pour lui, c'était tout à fait exaltant. Il ne se posait pas du tout la question de savoir si, vis-à-vis des vérités du christianisme, ces mouvements accomplissaient ou niaient.
C'est la négation même du christianisme, puisque partir de l'idée que ce qui valide la survie, c'est la survie elle-même. C'est-à-dire que, c'est le droit du plus fort.
C'est le droit du plus fort. Et que doit faire le jésuite? Eh bien, c'est baptiser le communisme.
Voilà.
C'était ça. Il faut évidemment, on peut pas le communisme va vaincre.
Ou le nazisme.
Le nazisme. Ouais. Alors ça peut être l'un ou l'autre. Enfin, on ne sait pas encore. Mais de toute façon, l'un ou l'autre va vaincre. Et donc, ce qu'il faut, c'est arriver à pénétrer d'une certaine manière dans le système nerveux des communistes ou des nazis pour les amener à accepter des idées chrétiennes.
Dans la vision teilhardienne, le communisme étant forcément un progrès sur le nazisme, puisque c'est une internationale socialiste, alors que le nazisme n'est que national socialiste. Donc c'est un état de l'évolution vers l'internationalisme et le mondialisme.
Alors en même temps, on voit que ça empêchait chez lui tout fonctionnement habituel des règles morales. Et il y a un exemple intéressant à donner, c'est celui d'Henri de Montfred. Donc il connaissait cet aventurier de la mer Rouge, ils avaient même fait des petites explorations ensemble. Et Montfred a fait du trafic de hashish, et à un moment donné, il a eu besoin, pour se procurer le hashish, il a eu l'idée d'entrer au Tadjikistan, qui faisait partie de l'URSS. Et les visas n'étaient pas faciles à obtenir. Alors, Teilhard s'est entremis pour faire attribuer par Vaillant Couturier, donc Paul Vaillant Couturier, qui était le directeur de l'Humanité, donc membre influent du Parti communiste, et il est passé par lui pour que Montfred ait ses visas pour aller chercher du hashish au Tadjikistan. Donc là aussi, c'est une image du jésuite savant qui montre bien que à partir du moment où tout est fluctuant, non seulement il n'y a plus de dogme, mais il n'y a plus vraiment de principes moraux. C'est le succès qui compte.
Il avait aussi, semble-t-il, des relations bizarres avec certains milieux satanistes par l'intermédiaire de sa sœur, je crois, qui sa sœur avait épousé Kino.
Alors là, je peux pas vous répondre parce que j'ai pas étudié cette
histoire. Il y a une histoire très bizarre là-dessus sur les.
Mais
avec des milieux satanistes, satanistes, disons le mot, dans lequel des personnalités intéressantes étaient présentes.
Mais je pense que lui-même était très certainement infesté, où il y avait d'ailleurs il y a un scientifique français qui était allé le voir peu avant la guerre, une époque où il était à Paris, qui voulait le rencontrer parce que lui était tout à fait contre la théorie de l'évolution, et Teilhard était un chantre de l'évolution. Donc ils se sont rencontrés et puis ils sont allés le voir, et à un moment donné, donc ils étaient dans son bureau, il était normal, et à un moment donné on a appelé Teilhard au téléphone. Bon, c'était une époque où il n'y avait pas de téléphone dans toutes les chambres comme aujourd'hui. Donc Teilhard s'est absenté quelques minutes, et donc ce scientifique, mais dont je tairai le nom, mais que j'ai connu personnellement, c'est lui qui m'a raconté cette anecdote. Ils étaient deux, d'ailleurs, et le second a des descendants qui connaissent cette histoire, donc ils se reconnaîtront parfaitement. Dans l'intervalle, Teilhard étant parti, il a sorti un peu d'eau bénite de sa poche, il a aspergé le bureau. Quand Teilhard est rentré, il a complètement transformé, il grognait, il hurlait, il était incapable d'un discours cohérent. Alors ça, c'est quand même un fait très intéressant.
C'est quand même significatif.
Qui montre bien que des déviants de cette nature, quelque part, sont reliés au prince des ténèbres.
La question qui se pose, c'est de savoir s'ils écrivent ce qu'ils écrivent parce qu'ils sont ce qu'ils sont, ou s'ils sont ce qu'ils sont parce qu'ils sont à force d'écrire ce qu'ils écrivent. Qu'est-ce qui précède? C'est l'œuf ou la poule? C'est la,
voilà, c'est la fameuse question.
Ouais. Mais est-ce que quand même il y a quelque chose à retenir en dehors de la remarque que vous faisiez, qui est paradoxale, qui est qu'il a en quelque sorte rapproché l'Église de la science, ou rendu possible des échanges entre science et religion? Est-ce qu'il y a des choses positives à retenir?
Moi, ce qu'on doit retenir, c'est la nécessité d'une cohérence entre ce qu'on croit sur le plan scientifique et ce qu'on croit sur le plan de la religion. Ouais. Et de ce point de vue-là, la démonstration de Teilhard, elle est imparable. Ouais. Et non seulement elle est imparable,
mais
elle a été acceptée. Ouais. Le problème, c'est qu'elle a fonctionné en sens inverse, c'est-à-dire qu'on a aligné tous les dogmes de la religion sur les théories scientifiques du moment, et en plus, on a choisi, je dirais, le mauvais cheval avec la théorie de l'évolution, qui est une théorie c'est pas une théorie, c'est une vision du monde complète. Alors si on accepte d'entrer dans cette vision du monde, à ce moment-là, c'est elle qui dicte toutes les vérités.
Voilà, c'est pas le docteur, hein, quand...
Oui, est-ce que je peux dire que vous l'avez dit?
Parce que le docteur vient nous parler d'évolutionnisme, alors je lui donne la parole, il n'y a pas de raison, pour une fois.
Ah, non, mais je
serais pas d'accord avec lui.
Ah, moi je pense que l'évolution existe. Comment dire, Teilhard, enfin, je crois que l'une des grandes erreurs, peut-être théologiques de Teilhard, c'est de penser que, il était jésuite, il était catholique comme nous, eh bien, c'est le... le Christ est incarné, et je dirais, donc, il était, Dieu sait s'il y avait un être évolué, c'était bien lui. Eh bien, il mettait un terme, je pense, il n'y a pas plus haut que lui.
Bah, il est l'alpha et l'oméga.
Il est l'alpha et l'oméga, d'ailleurs, il le dit.
Oui, mais alors, chez Teilhard, il n'y a pas d'alpha. Il y a l'oméga, il n'y a pas l'alpha. C'est ce qui est troublant, même. Ah, vous connaissez la formule, celui qui était, le était disparaît. Parce que son Christ, ce Christ oméga, c'est un point de convergence fictive. Oui, c'est tout à fait
étrange. Mais Christ oméga, c'est dans le temps qu'il le situe. Il dit plus tard, il y aura un Christ oméga. Alors que le Christ dit pas, j'étais l'alpha et je serai l'oméga. Oui. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. C'est un instant.
Et
d'ailleurs, c'est je suis celui qui est. Il est pas dans le passé ou dans l'avenir. Il est tout simplement comme une présence immanente.
Mais j'avoue que j'aime assez ce mot de noogenèse, parce que en fait, ce que je dirais, c'est que en fait, l'être vivant, on peut le définir de la façon suivante. C'est un être conscient. C'est la conscience. Il est intelligent. Même, je pense, on peut le dire même de l'amibe ou de la bactérie. Alors, évidemment, Dieu.
J'en fréquente pas suffisamment pour.
J'aurais quelque chose à dire là-dessus, évidemment. Mais je pense que ce qui manque à Darwin, notamment, et aussi à Lamarck, mais surtout à Darwin, c'est le fait que l'être vivant est, je dirais, a en lui une capacité incroyable d'invention, de stratégie, de pensée, si on peut dire. Mais de pensée, non pas métaphysique. Physique, bien sûr, mais on ne sait pas comment la nommer, de pensée physique. Et je prendrai un exemple qui est quand même extraordinaire. En 1975, c'est déjà un peu ancien, on a trouvé que, avec évidemment, Darwin ne le savait pas ça, et d'ailleurs il aurait été très embêté avec ça. On a trouvé que le flagelle des bactéries, ce sont des êtres qui unicellulaires, qui n'ont même pas de noyau à proprement dit, ils n'ont pas de membrane autour de leur noyau, donc ce sont des protocaryotes. Même avant les eucaryotes, c'est-à-dire c'est être très primitif. Or, ils ont quelque chose qui n'a rien de très primitif, qui est même, je dirais, révolutionnaire, qui le serait même très utile actuellement. Ils ont un moteur rotatif. C'est quand même extraordinaire, le flagelle. Ils ont des flagelles. Par exemple, le gerbe de la fièvre typhoïde ou le gerbe des colis, le colis, enfin, ont des, c'est extraordinaire. Ils ont un petit filament qui est on l'appelle la flagelline. Bon. Et ils ont inséré sur la membrane un petit anneau qui tient lieu de stator. Et
c'est le spermatozoïde aussi. Hein.
Le spermatozoïde, lui, il est fait différemment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de flagelline. Ce sont des tubules cylindriques. La composition n'est pas tout à fait la même. Mais c'est vrai qu'ils sont rotatifs. Mmh. Alors c'est quand même extraordinaire. Ils tournent à 200 à 1000 par minute. Comment comment concevoir qu'un être aussi primitif, aussi, qui existe peut-être depuis des milliards d'années, on ne sait pas exactement, ce sont des encore une fois très 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 modestes, ils ont un moteur ultra...
Alors justement, ce flagelle est un des exemples qui a été mis en avant par un scientifique américain qui s'appelle Michael Bay, et dont on va forcément parler prochainement, on en parlera à Angers, parce que le cardinal Schönborn a fait une déclaration, enfin une tribune libre dans le New York Times au mois de juillet, en s'appuyant justement sur les travaux de Bay. Et pour Bay, le flagelle des bactéries, qui est donc un espèce d'organe qui tourne dans l'ensemble du corps de la bactérie. Donc c'est tout à fait étonnant, parce que nous on arrive bien à tourner la main, mais pas en faisant des tours complets. Et c'est d'autant plus étonnant que cet animal, si on peut dire, n'a qu'une seule cellule. Donc il est tout à fait simple. Mais justement, il n'est pas simple. Il est complexe.
Oh, il est...
Et l'argument majeur du courant qu'on appelle aujourd'hui aux États-Unis l'Intelligent Design Movement, l'idée d'un dessin intelligent, d'une intention, d'une finalité, c'est que justement, tous les êtres vivants sont complexes. Mais d'une complexité considérable, parce que là vous dites il y a un rotor et un stator, mais il y a l'énergie chimique qui permet le mouvement, cette énergie chimique elle est produite, donc c'est la complexité d'une bactérie, disait Sermonti, président de l'association italienne de biologie, la complexité d'une bactérie n'est pas inférieure à celle d'un éléphant. Et ça c'est l'élément,
c'est la découverte de la roue
de la science moderne,
c'est la découverte du moteur, c'est quand même extraordinaire.
Mais c'est pas la découverte, enfin c'est la découverte, on publie dans le numéro qui sort là, du Libre Journal, un article de Blancy sur l'annonce qu'a faite le ministre, enfin la femme qui est ministre de la science, de l'éducation aux Pays-Bas, et qui a proposé d'ouvrir un débat pour décider, enfin pour étudier la possibilité d'enseigner d'une part les théories évolutionnistes et d'autre part les théories du dessin intelligent.
C'est ça, effectivement.
Et effectivement, pour beaucoup de gens maintenant, il devient absolument évident que
on ne peut pas échapper.
Mais alors attendez, je termine, si vous le permettez, quand même l'argument que j'avais commencé à développer, qui est celui de l'être vivant complexe. Un ensemble complexe ne peut fonctionner que s'il est complet. Et Bayé prend l'exemple d'aller du piège à souris. Vous savez, les pièges à souris, il faut un petit ressort, un lapin. Mmh. Tant qu'il manque un élément, ça ne peut pas fonctionner. Et ça, c'est la réfutation, la meilleure réfutation de Darwin, parce que l'évolution progressive, la constitution progressive des différents organes d'un être vivant, c'est absolument impossible. Parce que l'être vivant, tous les êtres vivants que nous connaissons, sans exception,
la fameuse question de l'œil,
voilà, ne fonctionnent que s'ils sont complets, et on ne peut donc on ne peut pas imaginez un état antérieur où il leur manquerait un organe. Or, la théorie de l'évolution, qu'on le veuille ou non, c'est l'idée que certains êtres vivants naissent avec un organe que ne possédaient pas leurs ascendants. C'est absurde.
Alors, la question que pose toujours le docteur Planté, que j'aime beaucoup, il dit, la question est de savoir si la banane est une évolution par rapport à la tomate ou le contraire. Est-ce que c'est la tomate qui a évolué depuis la banane, ou est-ce que c'est la banane qui a évolué depuis la tomate? Ça, aucun évolutionniste ne l'explique, ça.
C'est-à-dire que tant qu'on regarde les choses de loin, on vous fait des séries évolutives, vous prenez un vélo, une moto, une voiture, un camion, vous allez faire une série évolutive. Bon, mais il n'y a rien d'évolutif là-dedans.
Non,
c'est vous juxtaposer des choses, alors vous les mettez dans un ordre qui a l'air crédible, mais quand vous regardez, par exemple, vous savez, les ancêtres du cheval, les oïpus, alors c'est bien parce qu'on regarde les doigts. Il y a 5 doigts, 3 doigts, 1 doigt, mais quand on regarde les côtes, ça ne marche plus, parce que là, le mouvement n'est plus convergent.
Et oui, et dans le cas du flagelle, justement, si c'était vraiment la sélection naturelle dont parle Darwin, eh bien, je dirais, la sélection ne fait rien à l'affaire, parce qu'elle aurait peut-être choisi entre les moteurs, mais elle n'aurait pas créé le moteur. Et elle est même plutôt conservatrice, elle garde ce qu'il y a de mieux, mais elle ne peut pas élaborer elle-même le moteur. Elle agit après, en quelque sorte.
Donc, le néo-darwinisme a répondu
à
cette objection en disant, effectivement, la sélection ne peut que trier, et puis
ce sont les mutations qui
créent la variation, et à ce moment-là, la sélection,
c'est pas possible. D'oiseaux qui se sont cassés la gueule en attendant d'avoir des ailes. Petit à petit,
non, ça n'a pas de sens. Je crois que l'évolution existe, mais sans Darwin. Enfin, si, la sélection existe, bien sûr, mais pas du tout ce paramount power dont parlait ce pouvoir prédominant dont parlait Darwin.
Alors,
ça certainement pas.
On va revenir à votre mais je voudrais terminer avec Dominique Tassot parce que là on est en train de
dévier peut-être.
Oui, non, pas de dévier, mais de
intéressant débat.
Oui, le débat est intéressant. Enfin, j'espère qu'il est intéressant pour les auditeurs. Mais je voudrais laisser au docteur quelques minutes pour développer sa propre théorie de l'évolution qui est intéressante. Donc, vous allez présenter, vous, Dominique Tassot, une conférence sur la
religiosité.
La religiosité, c'est ça, de Michel Atelier de Chardin.
Un auditeur nous dit, ce n'est pas le centenaire, mais le cinquantenaire.
Oui, exactement. C'est le cinquantenaire de la mort en 1955.
Oui, c'est pas la première bêtise que je dis ce soir. Je peux vous signaler aux auditeurs, c'est probablement pas la dernière de l'année. Je n'en présente pas moi mes excuses pour ce lapsus. Quel est l'autre? Comment avez-vous? Voilà, la question que je voulais vous poser, c'est là. Ça paraît quand même un peu, passez-moi l'expression, mais un peu fouillis, votre colloque, parce que vous avez appelé ça la finalité dans les sciences et dans l'histoire, mais il y a des choses qui paraissent assez peu rapportables les unes aux autres.
Mais c'est-à-dire, ça peut paraître par les titres, mais ça ne l'est pas par les contenus qui ont été suggérés aux conférenciers. C'est parce que, par exemple, le principe de subsidiarité, on est directement dans la finalité.
Ah oui, là c'est clair.
L'harmonie du cosmos,
là aussi,
quelqu'un qui travaille à l'Observatoire de Paris, on est directement dedans. Le retour du vitalisme, on est directement dans la finalité, puisque le François Planté, donc, va nous parler de l'intérêt de la bioélectricité avec des travaux très importants qui sont faits actuellement aux États-Unis. Ouais, d'ailleurs, il va faire un voyage aux États-Unis pour se mettre à jour avant sa conférence. En particulier, il disait qu'on arrive à reconstituer des organes chez des animaux qui, habituellement, en sont incapables.
Ça, c'est la démonstration qui est faite dans un bouquin que François Planté m'a fait découvrir, qui s'appelle Blueprint, où l'idée, c'est que l'organisme se développe selon un plan et que dans certaines conditions on peut faire repousser les membres. Alors l'expérience a été faite avec des animaux, notamment avec des souris, on a fait repousser des membres amputés.
Donc on dépasse complètement la vision mécaniste qu'on avait de l'être vivant comme un Lego qu'on assemble, et c'est ce champ électrique ou cette forme qui est globale sur l'animal, évidemment c'est elle qui est fondamentale, et il n'y en a pas d'autre, et donc on retombe sur l'idée d'un programmeur. D'ailleurs le professeur Pierre Abichon viendra à ce colloque, enfin il n'est pas prévu dans les intervenants. Mais il avait fait, il y a 2 ans, un livre très très important au PUF qui s'appelle Le Programme Homme. Alors c'est quand même quelqu'un qui a été doyen de la faculté de médecine de Montpellier, qui est un très très connu comme chirurgien, comme professeur d'anatomie. Et lui est tout à fait contre l'évolution. Parce que justement, c'est l'argument. Alors qu'il l'a convaincu, c'est pas la complexité au départ, c'était la difficulté qu'il y a à fabriquer les prothèses. Quand il a vu toute la matière grise que des ingénieurs pendant des années mettaient derrière des prothèses,
et pour des résultats finalement,
pour des grands résultats qui sont quand même en général, même toujours,
pas
inférieurs
à
l'original. Et quand on voit la complexité et la merveille que sont les organes par eux-mêmes, inévitablement, là l'idée que ça pourrait évoluer comme ça au hasard des sélections naturelles, elle tombe.
Non, moi je crois évidemment que Dieu est créateur et que tout a été créé par Dieu, ça va sans dire, mais je crois aussi que ça a été créé avec un grain de sel, une grande quantité d'humour. Je crois absolument à l'humour de Dieu, et quand le docteur nous parlait des flagelles tout à l'heure, je crois que c'est la démonstration même de l'humour de Dieu, c'est-à-dire vous avez tout compris, expliquez-moi ça alors.
C'est l'être vivant supposé le plus élémentaire,
on fait un truc, il y a rien dedans et ça tourne. Alors maintenant, si vous trouvez pourquoi, expliquez-moi ça. Alors, ça se passe donc à Angers, et Angers c'est à 2 heures de Paris.
Oui, c'est à 1h30 de TGV.
Oui.
Et
vous
n'arrivez
pas à TGV, vous donnez de l'argent.
Non, ce qui, il y a des gens qui sont obligés.
Oui, donc c'est tout près, Angers,
c'est
grande banlieue.
3 heures de route.
Angers, 15 et 16 octobre 2005. Le Bon Pasteur, rue Marie-Euphrasie Pelletier.
Il faut s'inscrire.
Il faut s'inscrire, bien sûr. Alors, dites-nous
nous sommes
comment...
très confortables parce que c'est un endroit qui a été rénové et qui est très bien installé maintenant pour ce genre de manifestation. On peut loger les gens à partir de vendredi soir. C'est quand même commode parce que les premiers trains n'arrivent qu'à 9h30 le samedi matin.
Le vendredi soir, on peut coucher. On peut même coucher le dimanche soir pour les gens qui envisagent difficilement de rentrer chez eux très vite. Si le colloque, si l'intérêt, les discussions se prolongent après 15h30. Écrivez ou téléphonez ou envoyez un courriel au CEP, au secrétariat du CEP, dont je donne les adresses. L'adresse postale 4 rue de Beauvais, comme la ville, 91 410 à Saint-Cyr sous Dourdan. Le téléphone 01 60 81 27 24. Le courriel S comme secrétariat, je dis donc S.CEP, C-E-P, @wanadoo.fr. s.cep@wanadoo.fr. Je vous enverrai le programme, le bulletin d'inscription. Il faut me retourner le plus vite possible maintenant, puisque le colloque a lieu dans un mois, mais nous sommes obligés de faire des réservations avant pour être sûr de loger tous les participants.
Le prix?
Le prix. Alors, le prix est très variable, justement, suivant l'accommodement que vous aurez choisi. Il y a un tarif d'inscription qui est de 24 €, pour les gens qui ne logent pas, qui ne mangent pas. Mais nous avons des repas à 12 et 14 € respectivement, suivant que c'est samedi, dimanche, le matin ou le soir. Et pour les chambres individuelles, ça va de 33,50 pour une nuit à 98,50 pour trois nuits. Et on a aussi des chambres doubles, 22,50 pour une nuit. Je donne pas la totalité des prix, mais enfin ça donne
l'ordre de quoi. Et je rappelle la présence exceptionnelle d'Alexandre Lalomov, donc qui est un géologue russe qui vient avec sa femme d'ailleurs, et ça peut être l'occasion de lui poser des questions sur de tout autre sujet d'ailleurs que son métier.
Merci messieurs, mais ne partez pas parce que
si vous le permettez, comme chaque fois je dis quand même un petit mot du bulletin trimestriel que publie le CEP.
Alors je vous demande de le faire rapidement parce que
le dernier est sorti au mois de juin, mais il est encore dans les bonnes librairies que sont la librairie de
Saint-Nicolas,
Rue du Petit Pont, du Quai Diffusion, la librairie Guettier et même la Licorne Bleue.
Guettier, c'est juste derrière le
Notre-Dame d'Auteuil.
Radio Courtoisie devant Notre-Dame d'Auteuil. Voilà.
Donc 96 pages tous les 3 mois. Le prochain va sortir fin octobre et l'abonnement est de 30 € par an pour la France. Le numéro est à 7,50 et vous l'aurez encore pour 6 €, parce que ceux qui sont chez les libraires sont encore étiquetés à 6 €. Alors profitez-en.
Docteur, alors expliquez-nous votre affaire.
Voilà. Peut-être avant, si vous me permettez, je parlerai de la raison quand même pour laquelle je viens aussi. C'est que nous avons une manifestation samedi. Est-ce que je vous en dis un tout petit mot maintenant?
Vous peut-être avez un peu plus de 10 minutes, donc c'est bon, à vous d'évaluer.
C'est ça. Alors ça, évidemment, je ne voudrais pas manquer ça, parce que nous avons donc une réunion. Nous sommes aujourd'hui le 14, le 17 samedi, dans 3 jours, nous avons une manifestation sur le parvis de Notre-Dame. Je dis bien le parvis de Notre-Dame. Il n'y a pas d'endroit plus central. C'est le cœur même de la France, cœur de son âme, cœur de son corps. Enfin, c'est un endroit qui prend tous les symboles. Et voilà, la déclaration est faite. Alors la préfecture en est d'accord. Elle m'a seulement dit ceci: pas de haut-parleur. Et c'est amusant parce que c'est la préfecture elle-même qui m'a dit il faudrait en parler à l'archevêché. Alors j'en ai parlé à l'archevêché et donc c'est d'accord, nous pouvons tous venir. Alors je vous en prie, venez.
Et d'autant plus que... À quelle heure?
À 14h30, samedi 14h30. Alors, permettez-moi de dire juste un mot en ce qui me concerne, c'est que pour moi c'est aussi assez important parce que c'est la dernière fois que nous avons manifesté sur le parvis de Notre-Dame. Je n'y étais pas, mais j'étais sorti de prison, je venais de sortir sortir de prison. Et ma femme ne voulait pas que je sorte. Enfin, que j'aille à la manifestation. J'étais sorti la veille, je crois. Ou l'avant-veille, je ne sais plus. Et alors, c'était interdit. Il y a eu des arrestations. 99, un peu plus. Mais alors aussi, une chose curieuse, les gens de la cathédrale ont pris peur et les grilles étaient fermées.
J'aime bien le docteur Dor qui tient tête à toutes les institutions qui fait les manifs, tout, mais quand Madame Dor dit non, vous ne sortez pas, il reste à la maison.
Ben voilà, je ne peux pas tout lui demander, évidemment. Enfin bon. Alors, voilà. Alors, je crois que de fois, et je remercie tous les gens, que d'encouragement je reçois. Et notamment, les gens disent, mais je reconnais votre voix, vous parlez Radio Courtoisie, vous êtes le docteur Dersa. Et les gens me reconnaissent quelquefois comme ça. Ils ne connaissent pas mon physique, mais ils connaissent ma voix. Grâce à vous, vous voyez. Donc un immense merci. Et alors, je les supplie de ceci.
Grâce à Marconi, si vous voulez.
Ils me remercient, ils me félicitent, ils m'encouragent. Merci, je les remercie infiniment. Mais il me ferait tellement plus plaisir en venant nombreux ce jour-là et les autres jours, parce que nous sommes encore une fois au cœur de la France. C'est un moment extraordinaire, je crois. Nous parlons des petits et nous prions pour eux. Ça a beaucoup d'importance. Enfin, j'aurais beaucoup de choses à vous dire. Je reviens de Suisse aussi, mais je n'ose pas non plus trop.
Reste à peine 10 minutes.
Hein, à peine 10 minutes. Bon.
Bon, si vous voulez, à peine. Donc allez, vite, expliquez-nous.
Voilà. J'ai été invité par une association qui s'appelle l'aide de la Suisse pour la mère et l'enfant, ASME, A-S-M-E. Des gens tout à fait intéressants. Il y avait beaucoup de Suisses. Il y avait aussi une Autrichienne, Julia, qui s'occupait des jeunes en Autriche. Ils manifestent toujours devant les centres d'avortement, comme nous, mais peut-être avec encore plus de présence. Ils avaient des petites bougies, ils prient à l'intérieur, à l'extérieur. Ils sont tout à fait étonnants. Il y avait un Italien, enfin beaucoup de, donc pas mal de gens. Et alors, un des animateurs qui était là, que je connais très bien, c'est Adrien de Rienmatten, qui est un garçon tout à fait remarquable. Et maintenant, il est connu en Suisse pour la raison suivante. Vous allez voir, c'est scandaleux. À Berne, il y a eu une exposition.
Oui,
vous êtes au courant peut-être.
Oui, on est au courant. Enfin, ah bon, expliquez. C'est au détriment de
la moitié du fœtus, voilà, tout simplement. Et alors, comment peut-on parler d'art en collant la tête d'un vrai fœtus avec une vraie mouette, évidemment mort tous les deux, mais quelle honte pour l'un et pour l'autre. Dieu nous a pas permis de faire les associations. Mais justement, je reviens à l'évolution. Pour ce qui est de l'évolution, je crois que ce qui est intéressant d'abord à dire, c'est l'unité du monde vivant. L'unité, c'est l'unité cellulaire. Il n'y a pas d'être vivant sans cellule. Il y a un petit compartiment. Ce petit compartiment permet d'isoler l'individu, comme le nom l'indique, de l'extérieur. Et là, il se connaît lui-même. C'est le propre même de la conscience. Il sait ce qui lui convient, ce qui ne lui convient pas, même s'il est très petit, même si c'est une bactérie. On parle de phylotactisme. Enfin, ça, c'est une façon de parler, je dirais, de notre ignorance. Mais évidemment, il a des raisons profondes pour désirer ou ne pas désirer, être repoussé, etc. Je veux dire aussi une chose très curieuse, c'est que la bactérie, assez souvent, produit des vacuoles gazeuses. C'est-à-dire qu'elle met un petit gaz à l'intérieur, elle prend un petit gaz qui lui permet de flotter, et alors elle peut, si c'est intéressant pour elle, de monter à la surface pour avoir plus d'oxygène ou moins d'oxygène. Enfin, elle peut comme ça flotter. Ça règle son degré de flottabilité. Comme chez les poissons, vous savez, la vessie natatoire, surtout les poissons osseux qui ont une petite vessie là, sous le dos, juste au milieu, qui leur permet de mieux flotter, de s'élever ou de descendre. Tout à fait. Enfin, il y aura mille choses à dire sur ces petits êtres, évidemment. Alors, unité cellulaire. Unité chimique. Unité chimique, vous savez comme moi, et surtout l'ADN. Ça, c'est une découverte, je crois, de 1952, tout à fait remarquable, qui est le support, comme vous savez, de l'hérédité. Donc, unité chimique, unité cellulaire, unité métabolique. C'est-à-dire que la vie, contrairement à la matière, évidemment, elle peut se dégrader, mais elle construit. Elle peut. Alors, c'est l'anabolisme et c'est le catabolisme. Anabolisme et catabolisme. Elle est capable des deux. C'est tout à fait étonnant. Enfin, elle se reproduit. Tout ça, je dis des choses évidentes, mais il y a une unité fondamentale. Et je dirais même que leur unité, peut-être encore plus grande que toutes celles-là, c'est de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est la conscience. Je pense que, par définition, l'être vivant est conscient. Alors, il n'est pas conscient, encore une fois, à notre façon, à nous. Et c'est là où je trouve le terme de nos genèses me plaît bien. le terme. Rien que pour ça, j'aimerais bien Thérèse Lachardin. Parce que il y a déjà un système nerveux dans la, mais diffus dans la bactérie, tout à fait préadapté. Il y a quelque chose en elle de, et qui va alors chez nous se concentrer. Nous sommes des êtres polycellulaires, enfin, avec un organisme. Alors il va y avoir des spécialisations naturellement avec un système nerveux, système digestif. Mais elle a tout ça concentré dans sa petite personne, si on peut dire. Alors donc l'unité. Là, je dirais, quand il y a unité, on peut parler aussi de parenté, il me semble que ça va assez ensemble. Je dirais autre chose. Tout le monde connaît, parce que tout le monde en a acheté, tout le monde a dégusté les sols. Les sols, S-O-L-E-S, sont les poissons plats. Et là, c'est la preuve même de l'évolution, parce qu'ils portent l'évolution sur eux-mêmes. Et pas une, je sais bien que les fixistes admettent la micro-évolution. C'est-à-dire que l'espèce, peut avoir des micro-évolutions. Et c'est vrai, par exemple, le bec des pinsons des Galapagos peut s'allonger, peut se diminuer. Enfin, ce sont les petites différences. Là encore, c'est le rôle de la sélection naturelle, bien vu par Darwin, il faut dire. Mais c'est un rôle très limité. Un rôle très limité. Donc là, il y a une force, enfin, dans cette... je reviens à mon poisson. Il porte sur lui-même les marques de son évolution. Pourquoi ? Parce que vous savez que c'est un poisson à la Picasso, il a deux yeux du même côté, c'est quand même extraordinaire. Alors, je signale ceci, peut-être vous ne savez pas, je crois que c'est unique, enfin, je pense même, je l'ai vu écrit, c'est unique chez les vertébrés, et je pense que c'est aussi unique chez les arthropodes. Arthropodes, attention, ce sont les insectes, les araignées, tout ça, qui représenteraient environ 80% des êtres vivants. Ils appartiennent tous, vertébrés et arthropodes, ils appartiennent aux bilatéralia. C'est une façon de classer actuelle que moi je ne connaissais pas, que je trouve très intéressante. Eh bien la sole, les pleuronectes, je vais expliquer tout de suite le terme, la sole, les pleuronectes, eh bien, dérogent à la règle générale qui veut que ils aient les deux yeux de la même côté, mais attention, ils restent quand même symétriques, d'une certaine façon. C'est-à-dire que ils se couchent sur le côté. Ils évoluent. C'est là où je veux dire que l'évolution existe. Ils se couchent sur le côté à tel point que, une chose extraordinaire, c'est que leur queue, la queue d'un poisson, c'est vertical, tout le monde le sait. Hein, on les voit naviguer, les petits poissons rouges dans le bocal, tout ça. Et ils ont une queue qui reste horizontale. Vous allez voir pourquoi j'emploie le mot rester. Comme chez les baleines, comme tout chez tous les mammifères marins qui ont besoin d'une queue transversale qui leur permet de monter à la surface pour respirer. Mais là, c'est pas le cas évidemment de la sole puisque elle reste un poisson, comme vous le savez.
D'accord. Vous allez être obligé de revenir parce que
c'est presque
une minute.
Une minute. Alors, j'ai presque terminé. Chose extraordinaire. Et c'est là où je donne assez raison à Haeckel. J'avoue que j'ai un faible pour Haeckel. C'est-à-dire que quand vous étudiez l'ontogénèse, c'est-à-dire il y a une larve, avant même l'adulte, il y a une larve. C'est-à-dire que la larve, elle est parfaitement symétrique. Elle a un œil de chaque côté. Elle est bien verticale. Elle nage très bien, mais qu'est-ce que c'est ? Quelle est la stratégie de cette poisson ? Il cherche la sédentarité. Et là, il y arrive de façon extraordinaire. Alors, le premier signe de la métamorphose chez la sole, c'est l'œil gauche qui grimpe au-dessus de la tête. L'œil droit s'abaisse, il s'abaisse vers la commissure de la bouche, qui elle-même se tord. On assiste à un truc. C'est pas non plus la sélection, c'est pas non plus les mutations, ça c'est pas possible non plus. Je dis que c'est une stratégie intelligente et extraordinaire, mais que le poisson, je dirais, Dieu a tout créé, bien entendu, mais il a délégué, c'est ce que je veux dire aussi. Non seulement l'être vivant intelligent, mais encore il délègue. Voilà.
On va approfondir cette question dans une prochaine émission, parce que c'est ça la clé du
entendu.
C'est comment ça fonctionne.
Voilà.
Il nous reste 2 minutes, non, pas du tout. On ne peut même pas faire les annonces. Alors,
on peut dire qu'on a une sonate pour harpe et violon de Donizetti à la coupure.
Voilà, je suis désolé, je pensais qu'il restait le temps de faire des annonces. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine, vous n'avez pas fini de m'entendre. Et que Dieu nous garde.
Ici Radio Merci. Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 14 septembre de 18 à 21h, en différé jeudi 15, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé...